Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la FA. Le 13 mai 1950, à l'initiative de la Commission sportive internationale, naissait le premier championnat du monde de Formule 1 à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne et d'Europe à Silverstone. Et parce que parfois le hasard fait bien les choses, c'est dans le plus illustre de ces écrins, le Grand Prix de Monaco, que nous fêtons les 60 ans de notre discipline préférée. 60 ans de joie, de peine, et malheureusement aussi parfois de drame, mais surtout 60 ans de passion qui nous réunit aujourd'hui pour cette émission consacrée à la course dans les rues de la Principauté. Pour m'accompagner, comme toujours, rassurez-vous, eux, ils n'ont pas encore atteint les 60 ans. Bonjour Dino, quoi bonjour que. Enzo.
Bonjour.
À nous deux peut-être.
Hein. À nous deux, ah ouais, à nous deux on les tape. Hein.
Oh, alors... j'ai envie de dire, une course typiquement monégasque.
Oui.
Beaucoup de carbone et pas beaucoup de dépassements.
Oui, c'est vrai.
Bah des fois, heureusement qu'il y a eu beaucoup de carbone pour qu'il y ait des dépassements. Hein.
Oui.
Parce que sans Fernando, on se serait fait chier du début à la fin, parce que sinon...
Je dirais du début jusqu'à la fin, enfin, mais la... voilà.
Jusqu'au 77e tour et trois quarts.
Voilà, à peu près. Jusqu'à Anthony Noguès, on va dire.
Mais c'est qui Anthony Noguès?
C'est le nom d'un virage.
C'est le créateur.
Ah non, quelqu'un aussi.
Et ben en fait, c'est le créateur du Grand Prix de Monaco dans les années 20.
Oh là là, t'imagines, dans 20 ans, il y aura des virages German Tilk.
Eh oui.
Voilà. Non. Dans 20 ans, il y aura des lignes droites, Herman Tilk.
Oui. C'est un des rares virages qui n'a pas un nom. L'hôtel, le casino, le bureau de tabac. Non, voilà. La piscine.
Ça n'existe plus, le bureau de tabac.
Oui, ça existe toujours. C'est le bureau code-barre maintenant.
Le virage, oui. Le bureau, on ne sait pas. Donc, on va commencer comme d'habitude. Nous étions le 16 mai.
Elle en est où, la pétition?
Ah, je sais pas. Je sais pas te voir.
Non, parce qu'il faut faire quelque chose.
Non, oui. Non. Hey, si tu as écouté la dernière émission, il y a un défenseur de l'éphéméride.
Oui, il y en a un.
Alors, pour tout dire, j'ai écouté la dernière émission, je me suis endormi.
Ah, ça devait être à un moment donné où on a lu un extrait d'Iceman Air pour ça.
Sans doute.
Mais c'était tard aussi. Entre deux compètes de golf.
Au fait, t'as gagné ou t'as perdu?
Ah bah oui, on veut savoir.
Nous avons gagné pour la troisième fois, troisième année consécutive.
Bravo!
Champion du monde!
Bravo! Allez, tout de suite, le jungle.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. C'est pas drôle en fait.
Non.
Non.
Alors,
oui.
Excuse-moi, je pensais jingle et je repensais à, mais on coupera sans doute, hein. Je voulais te remercier Dino pour la super musique que t'as fait quand j'ai gagné, je sais pas. Enfoiré.
Non, mais je vais arrêter. À partir de maintenant, j'arrête. Je vous l'ai fait chacun une fois et maintenant.
Voilà.
Ça serait plus drôle sinon.
Bon, alors, l'éphéméride.
Donc, le 16 mai, nous étions la Saint-Honoré, qui n'est pas la fête des gâteaux. De même que je rappelle, la Saint-Hubert n'est pas la fête du beurre.
Mmh. Non plus.
Donc, les faits du 13 mai, nous allons remonter.
Du 13 mai.
Du 16 mai. Du 16.
Là,
je confonds avec mon intro. J'étais pas du 13.
Si tu te trompes de jour, moi je suis plus à jour. Quoi.
Non. C'est bien le 16 mai et on va remonter au 16 mai 1703. Oui. Avec la fondation de quelque chose.
L'académie, non, l'académie c'est...
Ah non, quelque chose de plus grand.
Fondation, plus grand, d'un état?
Non, plus petit quand même qu'un état.
Qu'une ville?
Fondation d'une ville.
Pff, c'est un rapport avec la F1?
Peut-être bientôt.
Ah.
Donc New York?
Pas New York.
Washington? C'est une ville américaine?
Ce n'est pas aux États-Unis.
Une ville en Russie, Moscou?
Saint-Pétersbourg.
Voilà, j'allais dire, c'est pas celle-là, c'est l'autre, c'est Saint-Pétersbourg.
Moscou c'est plus vieux à mon avis.
Oh oui.
Oui, bah ouais, non mais je tentais quand même le truc. Moi, je pars d'abord des capitales, ensuite je fais les sous-capitales, après je fais les capitales provinciales, après je fais les villages de secteur, après je fais les villes de secteur, après je fais les villages, les bourgs et les petites maisons.
Donc, Saint-Pétersbourg qui accueillera peut-être le Grand Prix de Russie. Autre création cette fois beaucoup plus récent. C'est le 16 mai 1929, et c'est, on va dire, dans le domaine artistique.
Ah, je l'ai lu, ça. Je sais. Je le dirai pas, je le sais.
1929?
Oui.
Ah, quelque chose que t'aimes bien, dis-nous.
Oui, oui.
C'est de l'art peint, c'est peinture, sculpture?
Non.
C'est on un est à Cannes en ce moment.
Oui, c'est en plus. C'est du cinéma.
Un cinéma couleur?
En 29, ouais, sans doute déjà.
Mais filmé avec le son?
Non, c'est quelque chose de beaucoup plus récurrent.
Toute compressée.
Ah, les premiers Césars?
Pas les Césars.
Les Oscars?
C'est les premiers Oscars. Ouais, cette année, c'était la 82e cérémonie. Vous rendez compte, 82 cérémonies. Et pour la première fois, on a eu une femme réalisatrice, meilleur réalisateur. Mmh. Et alors, tiens, par exemple, sur les Oscars, est-ce que vous connaissez un peu les trois films qui ont eu le plus d'Oscars en 82 ans?
Il y a Autant en emporte le vent.
Eh non.
Titanic,
11 statuettes sur 14 nominations.
Il n'y a pas eu le retour du roi il y a quelques...
Exactement, 11 sur 11, sachant qu'en plus, les deux premières parties, je crois, avaient déjà reçu des statuettes. Ouais.
Et l'autre, ça doit être un vieux film.
Ah oui, plus vieux. J'ai envie de dire que dans ce film, on avait un espèce d'ancêtre de la F1, mais qu'à l'époque, on n'avait pas de soucis avec les
voitures.
Voilà,
ah, oui, Ben-Hur. Oui.
Avec 11 pareils, le record c'est 11 sur 12 nominations. Et alors, il y a 3 films en 80 ans qui ont eu ce qu'on appelle les 5 Oscars majeurs. D'un coup, c'est donc meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario. Alors, il y a New York Miami en 1935, je vous le dis parce que je pense pas que vous alliez trouver.
Non.
Et on a deux autres.
Titanic?
Alors, pas Titanic. Vous ne les avez pas cités.
Comment il s'appelle? Il faut sauver Ryan?
Non, il n'y a pas de rôle féminin dedans.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, si je vous dis...
Est-ce qu'on va avoir un indice sur les, sur les dates, ouais.
1976, et je vais vous dire Asile psychiatrique.
Le parent. Orange mécanique.
Non.
Vol
au-dessus d'un nid de coucou. Et je vais vous dire 1992, et je vais vous dire que le foie, c'est bon. Le silence des agneaux. Ouais, pas mal. Belle culture cinématographique.
Bah, attends,
on va continuer sur ce thème pour une naissance en 1953. Et attention, c'est une question de rapidité. C'est la naissance d'un acteur irlandais.
En quelle année?
Liam Neeson.
1953, et attention, l'indice.
Quelle connerie.
Je vous dis l'indice, pouf, tâche, James
Sean
Bond.
Pas
Sean Connery.
Roger Moore.
Non, pas Roger Moore.
Timothy Dalton.
Pas Timothy Dalton.
Merde, le dernier, là.
Pierce Brosnan. Et vous les connaissez quand même presque tous, hein. C'est ouais. Pas mal. Eh oui, 1953, Pierce Brosnan. Et le même jour, alors là, par contre, c'est un décès. Ce n'est pas un acteur, c'est un musicien belge, et on peut dire que c'est le créateur d'une forme de jazz.
Une forme de jazz, quoi,
quelle nationalité?
Alors, belge.
Il sait.
Donc,
Django Reinhardt.
Exactement, Django Reinhardt, qui est le créateur avec Stéphane Grappelli du jazz manouche. Et peut-être que vous avez déjà dû écouter, ils ont fait une Marseillaise en jazz manouche, vraiment super bien. Les fêtes du jour, eh bien en Malaisie, le 16 mai, c'était la fête des profs. Car oui, en France, on agresse les profs, et ben en Malaisie, ils ont une fête. Ça s'appelle la Hari Guru, qui est en référence à une publication d'un rapport.
Ah, c'est bon la vie, pour les gants.
Et alors, le 16 mai en F1, cette fois-ci, c'est de l'histoire relativement récente de la F1. Alors, comme on est au mois de mai, bien évidemment, c'est un Grand Prix de Monaco. Ouais. Et c'est le Grand Prix de Monaco 1999. Il y a déjà 11 ans. Alors, qui a gagné 99?
99, c'est Schumi.
C'est Schumi.
J'ai fait mes stats, hein. Il y a pas longtemps.
Bah ouais. Hein. Qui n'en était seulement qu'à sa 35e victoire.
Oh la vache.
Et un deuxième, j'ai envie de dire... Non.
Akinen
a fini troisième. Et Irvine a fini deuxième. Alors c'est drôle parce que, en voyant un peu 99, c'est drôle parce que... quand on repense à cette époque, justement, on n'a pas forcément l'impression que c'est une époque si différente de 2010.
T'imagines si Shumi avait laissé gagner Irvine?
C'était pas le genre de la maison, hein.
Non, c'était pas le genre de la maison. Donc, ce qui est drôle, c'est que ça fait 11 ans, c'est à la fois très proche et c'est en effet très loin quand même, parce que est-ce que vous vous souvenez des pilotes qui étaient au départ de Monaco et en 99 et qui sont toujours là aujourd'hui, ou en tout cas qui roulent aujourd'hui?
Barrichello,
ouais. Coulthard, il roule plus, Coulthard.
Il y avait Trulli. Fisichella, il est troisième pilote.
Il y avait Weber.
Pas encore en 99.
Ah non, 2001. Ouais.
Alors, il y avait De La Rosa, et on peut noter aussi Badoer, qui roulait aussi à l'époque. Ah bah oui, hein. Ça c'est, voilà. Donc quoi, c'est loin, 99. Autre exemple, les constructeurs. En 99, d'après vous, combien il y avait de, vous savez, les grands constructeurs?
Il y avait Renault, ils étaient partis.
Ils étaient partis et pas encore revenus.
Toyota, ils allaient venir un peu, je crois.
Non, ouais.
Ah non, Toyota, ils étaient pas là. Hein.
Ils étaient pas là.
Ils allaient, je crois que c'est en 2000 qu'ils ont commencé à faire des tests avec une voiture. Mais il y avait Ferrari, Mercedes, Honda.
Il y avait Peugeot, non?
Oui, en tant que motoriste. Mais là, je parlais juste constructeur, mais c'est vrai que ces sociétés-là étaient là, mais seulement en tant que motoriste. Bah, en fait, en équipe,
Ferrari, et c'est tout.
Et c'est tout. Alors, les structures étaient déjà là. Et d'ailleurs, la plupart des structures de cette époque sont toujours là aujourd'hui. Et en fait, donc, les deux structures finalement qui ne sont plus là, c'est Prost et Arrose, exactement. Et alors, moteur aussi, c'est pareil. Cette année, c'est un peu peau de chagrin, les moteurs. On pense qu'il n'y a que quatre moteurs différents.
Ah, mais quand tu dis moteur, tu entends moteur ou parce qu'il y avait Mugen, il y avait.
Alors, on va dire moteur. Petronas, mais bon, en effet, ça va être intéressant parce qu'il y a des rebadgeages.
Ferrari, Mercedes, Peugeot, Honda.
Ah, attends, la Rose, c'était pas le truc malaisien, là.
Alors, je vais vous dire, il y avait Ford Cosworth. C'était encore ensemble. Il y avait Supertech, qui était l'héritier du Renault, et qui a été rebadgé chez Benetton. Est-ce que vous vous souvenez du rebadgage Benetton à l'époque?
Playlife.
C'était Playlife, qui est une marque de fringues du groupe Benetton. Ouais. Le Ferrari, bien évidemment. Le Mercedes, qui à l'époque était à la vie, à la mort avec McLaren.
Ouais.
Et oui. Il y a Mugen Honda, parce que là encore, c'était pas Honda vraiment, c'était Mugen Honda. Il y avait Peugeot, qui était encore là. Il y avait le Petronas, évidemment c'est le Ferrari. Et en effet, alors Arrose, qui était sous la marque Arrose, ils avaient racheté en fait les moteurs Hart. Ça a pas aidé, c'était pas des flèches. Humour.
Il faut parler un peu anglais dans cette émission.
Donc voilà, c'était tout pour l'année 99, si proche et en même temps très différente. On se rend compte du chemin qui a été fait en 11 ans seulement. À noter d'ailleurs que donc le Grand Prix de Monaco 99, c'était le 634e Grand Prix de F1, donc au bout de 50 ans hein, quand même, 49 ans. Mmh. Et le Grand Prix de Monaco 2010, c'était déjà le 826e. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a fait près de 200 Grands Prix quand même.
Ouais. Merci Bernie.
On va pas mettre 10 ans pour atteindre les 1000 à ce rythme-là.
Je me rappelle quand Ferrari, je sais plus pour quel Grand Prix, avait mis un logo pour son 500e Grand Prix.
Ils ont fait le premier Grand Prix Ferrari.
Je crois qu'à Silverstone, il n'était pas là.
Je me rappelle une question que m'a posé Jean-Pierre Foucault la semaine dernière.
Voilà, c'est tout pour l'éphéméride.
Ah, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que je viens de dire parce que la semaine dernière, tu nous as posé la question. Sur le 9 mai, puisque le 8, Gilles Villeneuve s'était tué.
Ah,
et bien là, on était le 16 mai, et le 15 mai 86, c'est Elio De Angelis qui est mort.
Ah, oui, c'est
en essai privé à Opel Ricard. Voilà, c'est tout. Bon, d'accord, moi je plombe un peu l'ambiance.
Non, mais c'était bien de le rappeler.
Non, mais donc, c'est vrai tout d'un coup, ça devient un peu chronique mortuaire, quoi, comme émission.
Mais écoute, je l'ai dit dès mon intro, c'est 60 ans de joie, de peine et aussi, malheureusement, de drame.
Et Elio De Angelis, quand même, qui a inspiré, dont est, son casque a inspiré celui de Jean Alesi. Si vous allez voir le casque de d'Elio De Angelis, vous verrez, c'est le même.
Ah oui, c'est vrai, je vois un peu, je vois de quoi tu parles. On passe à la suite avec une surprise, j'ai envie de dire.
Oui, une petite surprise.
Une chanson. Double page soumis.
Non. Soumis, double page.
Ah non, mais... Je dis ça, je dirais. Hein.
Alors, Dino, explique-nous.
Oui, bah, petite surprise. Enfin, oui, c'est quelque chose d'inhabituel parce que généralement, à ce moment-là, c'est l'heure du JT du SAV. JT que l'on fait ensemble pendant l'enregistrement, mais que j'écris en aval. Et il se trouve que depuis l'émission de la semaine dernière qu'on a enregistrée mercredi dernier, donc il y a pile poil une semaine, il n'y a pas eu grosse actualité en dehors du Grand Prix. Donc voilà, comme j'avais pas assez de contenu pour faire un vrai beau JT du SAV comme on en fait depuis le début de saison, je me suis dit que là, plutôt que de faire un demi-JT, autant faire autre chose qui reviendrait sur l'actu. Et donc j'ai eu l'idée de reprendre une idée que j'avais eue avant la saison, qui était l'idée de faire un jeu, mais un vrai jeu, où tous les deux vous participeriez. Alors on a la traditionnelle question actu qui passe inaperçue, mais là c'est un jeu que j'ai appelé le Paulman de l'actu.
Voilà.
Wow. Parce que c'est un jeu, il faut pas s'appeler Paul, mais il faut être rapide.
Mais je vais être très nul parce que je n'avais rien suivi de ce Grand Prix.
Il y a peut-être des chances que tu sois nul, mais ça concerne pas Grand Prix. C'est vraiment très, ouais, très vague. C'est aussi une question de rapidité. Moi, je vais vous proposer 3 manches dans ce jeu. Une première manche que j'ai appelée la manche question pour un champion. Une deuxième manche que j'ai appelée le sprint de l'actu. Et une troisième manche fort peu originale puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la question actu qui passe inaperçue. Pendant la première manche, vous pourrez gagner de 1 à 4 points. Mm-hmm. Pendant le sprint de l'actu, vous pourrez gagner jusqu'à 12 points.
Oula.
Et avec la question actu qui passe inaperçue, vous pourrez gagner 10 points. Est-ce que vous êtes prêts?
Bah, faut bien.
Faut bien.
Alors, les deux premières manches, hein, Q1 et Q2, sont des manches parallèles. Donc, il y aura un questionnaire pour Shinji et un questionnaire pour Enzo. Et vu que Shinji était là la semaine dernière, on va lui donner la priorité.
ouais, super. Super sympa.
Alors, la priorité de choisir, alors, c'est pas dans l'ordre. J'ai fait deux menus à qui j'ai donné un titre. Il y a le menu Raskas et le menu Mirabeau. Alors, quel menu choisis-tu, Shinji? Raskas ou Mirabeau?
Mirabeau.
Mirabeau. Donc, comme tu as choisi le menu Mirabeau, qui est en deuxième sur ma feuille, tu feras l'exercice en deuxième.
C'est logique.
Super logique, ouais.
Voilà. Donc, Elzo, tu sauras le menu Raskas. Mm-hmm. D'accord? Pour un ancien fan de Schumacher, c'est un bon menu.
Oui.
Donc, on va commencer tout de suite avec la première manche, qui est la manche question pour un champion. T'as déjà vu question pour un champion?
Ouais.
On te pose une question et au fur et à mesure que tu avances dans la question, soit tu marques 4 points, puis 3 points, puis 2 points.
D'accord. Et comment on voit où on en est?
Alors, toi tu verras pas, parce que moi c'est écrit sur ma feuille, en fonction du moment où tu vas me donner ta réponse, je saurai.
D'accord, mais Shinji joue pas, il y a que moi qui joue.
Shinji ne joue pas, lui répondra à la question pour un champion du menu Mirabeau.
D'accord, est-ce qu'on a le droit de te proposer autant qu'on veut?
Autant que tu veux, tu dis stop et je m'arrête.
D'accord.
Mais ce que je vous propose pour vous entraîner, c'est de faire, allez, un petit bonus, une question comme ça pour s'entraîner. Mmh. Vous avez le droit de participer tous les deux.
D'accord.
Alors par contre, quand vous participez tous les deux, Shinji, tu dois dire Mirabeau pour m'arrêter.
Ouais.
Et Enzo, tu dois dire Raskas.
Ouais, sinon, ça va être le bordel.
Ok.
D'accord. Alors là, si vous êtes prêts.
Oui.
Alors c'est une question actuelle sur la F1, attention. Indice, né en 1960, je débute ma carrière sportive sur deux roues où j'obtiens plus de 50 victoires dans les divers championnats de vitesse de mon pays.
Raskas.
Oui.
Comment il s'appelle? Merde!
Avant que ma mère ne...
Mirabeau!
Oui?
John Surtees?
Non. Avant que ma mère ne me convertisse finalement au bolide à quatre roues, ce n'est qu'à 31 ans que j'intègre une écurie de Formule 1 en tant que pilote essayeur, où mon travail de l'ombre me vaut les louanges de mes
collègues. Raskas.
Oui?
Brabham.
Non, même s'il me faudra attendre mon premier Grand Prix national en 92 pour
Mirabeau.
Oui.
Damon Hill.
Oui, Damon Hill. Et pourquoi Damon Hill?
J'ai pensé, mais 50 victoires, je ne pensais pas tant.
Ah oui, oui. Je me suis rappelé, mais de loin, en effet, qu'il avait fait de la moto. Oui. Et puis le fait qu'il a commencé tard.
Donc je vous dis quand même la fin pour le plaisir. Ce n'est qu'à 31 ans que j'intègre une écurie de Formule 1 en tant que pilote essayeur. Mon travail de l'ombre me vaut les louanges de mes coéquipiers, même s'il me faudra attendre mon Grand Prix National en 92 pour me voir prendre le départ. Et également attiré par la musique, je fais mes gammes dans un groupe éphémère appelé Sex Hitler and the Hormones. En 2010, je deviens commissaire lors d'un Grand Prix dont mon père fut longtemps la référence.
Démonie.
Donc, alors ça c'était juste pour s'entraîner, alors maintenant Enzo...
Et il aurait marqué combien de points là, Sylvie?
Ouais.
Il aurait marqué, alors vu qu'il a répondu, il aurait marqué 3 points.
D'accord. Ah oui, cool.
Donc est-ce que tu es prêt Enzo, tu me dis quand tu es prêt?
Je suis bien prêt, Dino.
Attention chez vous, chers auditeurs, indice. Né en 1960, ce n'est qu'après 31 ans que je découvre la Formule 1 après m'être d'abord...
Rascat.
Oui.
Démonie.
Non.
J'y ai pensé comme toi, Dino, Enzo, hein. Je me suis dit, il l'a ressorti.
Non, mais c'est fait exprès. Après m'être d'abord consacré au karting avant de rendre hommage à un pilote décédé en 1959, j'ai assisté à une victoire de Nigel Mansell, Damon Hill, Ralf et Michael Schumacher, Hans-Harald Frentzen, David Coulthard, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen ou encore Felipe Massa. Circuit de Formule 1 composé de 17 virages s'étalant sur près de 4,5 km, je suis pressenti pour remplacer le Grand Prix de Corée. Situé dans la Nièvre, je recevrai... Oui. Oui, c'est Manicourt. Et tu marques un point.
Je cherchais un mec, moi.
Oui.
Donc maintenant, on passe à la question pour Shinji, la question Mirabeau.
Ouais.
Shinji, es-tu prêt?
Oui.
Attention, Enzo a réalisé le score affolant de 1 point.
Je suis prêt.
Indice. Pilote de Formule 1, héritant mon nom d'un pilote de moto décédé, je débute le karting à l'âge de 3 ans avant de devenir progressivement champion de mon pays, puis champion du monde. Après avoir remporté 2 fois le Memorial Ayrton Senna et avoir signé 2 victoires en F3, j'intègre l'écurie Benetton puis Minardi qui me fait faire mes débuts en Formule 1. Et réputé pour mon efficacité dans l'exercice de la qualification, j'ai devancé 13 fois consécutivement mon...
Mirabeau.
Oui.
Trulli.
Oui, c'est Yarno Trulli. 2 points pour Shinji. Donc, réputé pour mon efficacité dans l'exercice de la qualification, j'ai devancé 13 fois consécutivement. Il pouvait taper le record 14, ce qu'il n'a pas fait puisque Kovalainen a devancé. Mon coéquipier sur le circuit monégasque. Doyen des pilotes italiens en activité, je fus longtemps le coéquipier de Fernando Alonso. Je suis Yarno Trulli. Voilà, bah, bravo messieurs. Donc, nous avons à la fin de cette première manche le rascasse de Enzo 1 point, le Mirabeau de Shinji 2 points. Mais c'est l'heure de la deuxième manche. Donc, le principe du sprint de l'actu, c'est simple. Tu as 1 minute. Donc, je mets mon chrono. Je fais des... Voilà. Tu as 1 minute pour répondre à un maximum de questions.
Oula.
Plus ou moins difficiles. Tu as le droit de dire « je passe » si tu trouves une question trop difficile ou si tu ne la comprends pas. Mais ce sont des questions...
2 minutes.
Non. Je veux bien faire 1 minute 30 si tu veux. Pour la première.
Allez, 1 minute 30.
Ouais. Allez, 1 minute 30. D'accord. Donc, il y a 12 questions. D'accord. Oui. Avec 12 questions. Très rapides. Les réponses sont, si on a suivi l'actu, plutôt simples. Certaines sont plutôt difficiles. Et surtout, n'hésite pas à passer. Je reviendrai sur les questions si besoin.
D'accord. Ok.
D'accord.
Je suis prêt, Julien. Dino.
Attention. C'est parti. Durant l'été 2009, quelle écurie a été convoitée par Jenson Button?
McLaren. Red Bull.
Oui, bien. Quelle écurie candidate pour 2011 a reçu le soutien de la Fédération
automobile
espagnole, qui a déclaré que la F1 restait le sommet de la course automobile, mais que son image était devenue trop élitiste pour elle?
Je passe.
Quel animal autre que le cheval et le taureau Ferrari souhaite-t-elle revoir l'an prochain dans les paddocks?
Le mulet.
Bien. Grâce à la pénalité de Michael Schumacher, Alguersuari marque ses premiers points de la saison, vrai ou faux?
Faux.
Bien, pour quelle raison, contrairement à Rubens Barrichello, Jenson Button n'a-t-il pas pu jeter son volant sur la piste?
Je passe.
Quel pilote de F1 s'est transformé en chef ingénieur de Luca di Montezemolo qui essayait le nouveau simulateur Ferrari?
Je passe.
Et quel temps minimum a été imposé aux pilotes pour leur tour d'entrée et de sortie des stands en qualif ce week-end?
1 minute 30.
Faux. Lewis Hamilton arborait à Monaco un casque collector représentant le plateau d'une roulette de casino. Sur quel numéro s'était arrêtée la bille?
Le 1.
Faux. Et quel pilote Force India n'a pas roulé lors de la séance d'essai du vendredi matin?
Luigi.
Faux.
C'est-il.
Faux. À Monaco, qui ou quoi a gagné près de 10 cm par rapport à l'an passé?
c'est dégueulasse. Je passe.
Pour quel Grand Prix Red Bull espère-t-elle disposer de son désormais indispensable F-Duct?
Turquie.
Oui, bien, et c'était la dernière question. Donc on va vite faire revoir le questionnaire.
Tu dis réponse?
Oui, durant l'été 2009, quelle écurie a été convoitée par Jenson Button? C'est effectivement Red Bull. Quelle écurie candidate pour 2011 a reçu le soutien de la Fédération Automobile Espagnole, Shinji, tu le sais?
Non, ça non.
C'est Epsilon Euskadi.
C'est Epsilon, ouais.
Qui a déclaré que la F1 restait le sommet de la course automobile, mais que son image était devenue trop élitiste pour elle?
Toyota.
Toyota, non. Oui. Quel animal autre que le cheval et le taureau Ferrari souhaite-t-elle revoir l'an prochain dans les paddocks? C'est effectivement le mulet.
Ça, faut la comprendre la question.
Ouais. Faut la...
Mais tu as bien répondu. Et grâce à la pénalité de Michael Schumacher, Alguersuari marque ses premiers points de la saison. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
C'était Buemi qui marquait ses premiers points de la saison. Alguersuari a marqué les siens depuis longtemps. Donc ça fait un nouveau point. Pour quelle raison, contrairement à Rubens Barrichello, Jenson Button n'a-t-il pas pu jeter son volant sur la piste?
Et il était plus sur la piste.
Bon, ouais. Je sais pas.
Non, il était incrusté de diamants et que c'était plutôt
déconseillé. Ah oui.
Quel pilote de F1 s'est transformé en chef ingénieur de Luca di Montezemolo qui a essayé cette semaine le nouveau simulateur Ferrari?
Alonso?
Non, Marc Gené, c'est un autre espagnol. Quel temps minimum a été imposé aux pilotes pour leur tour d'entrée et de sortie des stands en qualif ce week-end?
C'est 1.22, je crois.
C'est 1.22, en effet. Hein, c'est l'équivalent du tour d'une GP2. Plus de 2 secondes. Lewis Hamilton arborait à Monaco un casque collector représentant le plateau d'une roulette de casino. Le numéro sur lequel elle s'était arrêtée, cette roulette, c'était le numéro
8.
Non, le numéro 44, parce qu'il s'agit du numéro de son karting lorsqu'il a gagné sa première course, apparemment. Voilà. J'ai cherché hein, celle-là.
Ah oui.
C'est quasiment introuvable. Quel pilote Force India n'a pas roulé lors de la séance d'essai?
Oh bah, c'est le troisième pilote, je sais pas comment il s'appelle.
Et je te dis, est-ce que tu as un nom?
Comment il s'appelle leur pilote essayeur? Je sais plus.
C'est pas Di Resta?
Oui, c'est Paul Di Resta.
Ah ouais, c'est ça.
À Monaco, qui ou quoi a gagné près de 10 cm par rapport à l'an passé? Ça n'a rien de sexuel. Shinji, tu le sais? Ils étaient jaunes, ils étaient à la piscine et au port.
Ah oui, les vibreurs.
Les vibreurs.
Ah oui.
Et enfin, pour quel Grand Prix Red Bull espère-t-elle disposer du désormais indispensable F-Duct? Effectivement, c'était la Turquie. Bravo Enzo, tu as marqué 4 points. Non,
ah, quand
oui, 4 points. Ce qui fait ton total de points à 5.
Bien.
Shinji, es-tu prêt pour le sprint de l'actu?
Oui, je suis prêt.
Pareil.
Attends, je chronomètre. Lui, il a qu'une minute.
J'ai dit à 1 minute 30, comme tout le monde.
Ah bon.
Attention. C'est parti. Quel nom de pilote circulait à Monaco pour remplacer Felipe Massa chez Ferrari en 2011?
Kubica?
Faux. Quelle écurie de GP2 s'est portée candidate pour participer au championnat 2011, peu avant le Grand Prix Monaco?
Art ou ART?
Bravo. Quel ancien pilote champion du monde a déclaré « Quand vous gagnez à Monaco, vous pouvez gagner le championnat du monde. » J'espère qu'il pourra le faire et je pense qu'il le fera.
Loda.
Faux. De combien de secondes a été pénalisé Michael Schumacher à la fin du Grand Prix?
20 secondes.
Bien. Lewis Hamilton a célébré sa 50e course en carrière ce week-end à Monaco. Vrai ou faux?
Faux.
Faux, c'était Liuzzi, en effet. Avant d'être engagé par HRT, quelle écurie de Formule 1 convoitait Christian Klien?
Toro Rosso?
Faux. Le nouveau sponsor de Renault, Trina Solar, est une marque de crème solaire, un fabricant de panneaux solaires ou une agence de voyage italienne?
Panneaux solaires?
En effet. De quel article du règlement sportif relatif à l'intervention de la safety car reposait la pénalité infligée à Michael Schumacher?
42?
Faux. À Monaco, vit Antonio Lucci arborait un casque spécial recouvert de deux types de billets en euros. Quels en étaient les montants?
Je passe.
Quel manufacturier de pneumatiques a reçu le soutien de toutes les équipes?
Bridgestone?
En effet. Oh. D'après Stefano Domenicali, quels sont les deux manufacturiers toujours en lice? C'est
fini. Et ça dépasse.
Et c'est fini. Donc je reprends cette dernière question. Donc Shinji, tu peux répondre pour la beauté du geste. Okay. D'après Stefano Domenicali, quels sont les deux manufacturiers toujours en lice pour équiper les F1 en 2011?
Pirelli et Michelin.
Tout à fait. Lors de quel tour Fernando Alonso a-t-il réalisé son seul et premier et unique arrêt au stand?
Le premier,
en effet. Alors on repasse.
C'était facile, hein. Ça, c'est vrai, elle était super facile. Ah, j'ai la réponse. Non, mais j'ai toutes les réponses.
Donc, on reprend le questionnaire. Quel nom de pilote circule à Monaco pour remplacer Felipe Massa chez...
C'est Weber, ouais.
C'est Weber, en effet. Quelle écurie de GP2 s'est portée candidate pour participer au championnat 2011 peu avant le Grand Prix? C'est effectivement Art Grand Prix de Frédéric Vasseur et
Nicolas Todd,
qui est également candidat apparemment à un moteur Renault. Quel ancien pilote champion du monde a déclaré « Quand vous gagnez à Monaco, vous pouvez gagner le championnat du monde. J'espère qu'il pourra le faire et je pense qu'il le fera. » C'est Jack Brabham qui a dit ça.
Ah oui. Ouais.
De combien de secondes a été pénalisé Michael Schumacher à la
fin? Celle-là, Flo, elle était facile. Hein.
20 secondes. Lewis Hamilton a célébré sa 50e course en carrière ce week-end à Monaco. Vrai ou faux? C'était faux. C'était Liuti. Avant d'être engagé par HRT, quelle écurie de Formule 1 convoitait Christian Klien?
Stéphane GP.
Vous voyez?
Ah oui.
Le nouveau sponsor de Renault, Trina Solar, est une marque de crème solaire, un fabricant de panneaux solaires ou une agence de voyage italienne? C'est effectivement un fabricant de panneaux solaires. Sur quel article du règlement sportif relatif à l'intervention de la safety car reposait la pénalité infligée à Michael Schumacher?
44.
Alors c'est le 40.13.
Oh, je savais que c'était dans les 40, mais...
À Monaco, Vittorio Liuzzi arborait un casque spécial recouvert de deux types de billets en euros. Quels en étaient les montants?
Alors là...
500 et 200.
Non, 500 et 100 euros.
Et 100, pardon.
Quel manufacturier de pneumatiques a reçu le soutien de toutes les écuries? C'était en effet Bridgestone. Cela nous fait 1, 2, 3, 4, 5 points pour Shinji dans cet exercice du sprint. Le score pour moment est de 7 à 5. Le match est serré. Car n'oubliez pas, nous passons la troisième manche qui est la manche la plus difficile, celle dont vous avez l'habitude et qui donnera cette fois-ci lieu à un match à mort entre les deux participants. La question actu qui passe inaperçue.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou ! L'actu ! Où es-tu ?
Alors, messieurs, vous connaissez le principe de la question actu qui passe inaperçue, même si ça ne vous sert jamais à rien. La question est simple cette semaine, très simple. Vous allez voir, vous allez l'adorer. Je vous rappelle, il y a 10 points. Le score est de 7 à 5. Les deux candidats vont s'entretuer d'ici quelques instants pour trouver la bonne réponse. Je ne répondrai que par oui ou non à vos questions. Ou par peut-être, parfois. De quelle manière la sœur d'un pilote s'est-elle faite remarquer ce week-end à Monaco? Ah, vous les aimez mes questions.
C'est un défilé de mode.
Alors, t'as même pas eu le temps de remarquer. Et Enzo, tu sais, est-ce que tu es capable de me dire quelle sorte de pilote a été un pilote?
Absolument pas. Mais j'ai vu des photos où il m'a défilé. Voilà.
Et ben, cette question super dure est remportée par Enzo.
Écoute, je dois reconnaître ma défaite. Là, c'est un headshot magnifique.
Qui remporte du coup cette première édition du Pullman de l'actu avec un score final de 15 à 7.
Facile en plus. Et c'est qui alors?
Alors il s'agit de... Alors elle a pas défilé, elle a organisé. Et c'est la sœur de Eddie Irvine.
Ah oui, exact.
C'est Sonia Irvine qui organise depuis 2003 des soirées Amber Lounge.
Ouais.
Je ne me demandais pas pourquoi Amber Lounge.
Il y a des pilotes, Steel Button et tout ça, qui ont participé il y a quelques années.
Alors, c'est la soirée considérée comme la crème de la crème des soirées VIP. C'est the place to be quand vous êtes sur la Côte d'Azur. C'est depuis donc 2003, on en était à la 8e édition cette année, cette sorte de nightclub éphémère de luxe suit la F1 sur ses étapes les plus prestigieuses et on le retrouvera à Singapour et à Abu Dhabi également au programme cette saison. Alors il faut savoir en effet que depuis 2006, cette Amber Lounge organise également un défilé de mode auquel participent les pilotes. Alors cette année, ce sont les collections de la marque de prêt-à-porter d'Elizabeth Hurley, la comédienne, et de la maison de mode Missoni qui était représentée en vedette. On a ainsi pu voir défiler Hamilton, Sutil, Liuzzi, Di Grassi, Alguersuari, Kovalainen, Rosberg ou encore le séduisant Mika Häkkinen. Vous avez vu que j'ai fait une pause. Hein. À savoir aussi que le que c'est pas un défilé juste comme ça pour montrer les fringues, mais que c'est aussi pour le ça a traditionnellement lieu le vendredi soir. C'est sponsorisé par Martini et c'est aussi l'occasion pour les pilotes de soutenir publiquement une association, l'association qui a été en 2008, 2009 et 2010 l'association de lutte contre le SIDA d'Elton John. Et qui a récolté sur ces dernières années plus de 2 millions d'euros, tout de même. Mais c'est aussi l'organisatrice de la plus grande soirée d'après Grand Prix, avec 1000 personnes sélectionnées sur le volet ou qui dansent autour d'une piscine. Et savez-vous qu'il est possible d'y louer une table pour 8 pour la modique somme de minimum 6000 euros.
Oh.
Ce qui ne vous offre juste que 8 chaises et une table. Parce que et de l'alcool à volonté.
Ah,
parce que si vous avez faim, vous avez un menu avec 3 plats et toujours l'alcool à volonté à 650 euros par personne.
Et la poudre est incluse sur le prix.
Alors j'ai cru comprendre sur certains sites internet que alors qu'il y a le scandale de la prostituée avec l'équipe de France, que pendant ces soirées, il était déjà arrivé à ce qu'on demande aux services de sécurité s'il était possible d'avoir une fille contre de l'argent ou d'avoir des substances interdites dans certains pays. Voilà. Bon, peut-être erreur de traduction, on aura la réponse quand les flics viendront sonner chez moi. Bon, savoir quand même que le jet-setter de la F1, c'est...
Button.
Button, hein. Et qui a dit Button, qui a remporté le Grand Prix Monaco l'année dernière.
Ouais.
Il a déclaré que pour lui, ces soirées, c'était le meilleur endroit pour récupérer d'un Grand Prix. Danser toute la nuit,
circule
la piscine, c'était le meilleur endroit.
Ouais.
Donc voilà, c'était la question actu et c'était le poleman de l'actu. Bravo Enzo et bravo Kamea Shinji qui n'a pas démérité.
Ah non. Tu sais, Shinji, il faut que je te le dise, ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas de t'avoir battu, c'est de lui avoir niqué sa question actuelle. Je suis passé inaperçu.
Ah non, mais c'était splendide. Tu vois, j'ai l'impression d'être comme Hülkenberg dans son deuxième tour.
Inexistant.
Voilà.
Voyez.
Bon, c'est bien que tu parles de Poleman. C'est une magnifique transition.
Eh ben voilà, donc du coup on va virer les JT, on va garder ça, ça fait des transitions tout seul.
Ça fait des transitions tout seul pour, bien évidemment, notre grille du Grand Prix de Monaco, qui comme tous les ans est toujours super importante à Monaco. Et encore une fois, pour la 6e fois consécutive. Alors j'ai regardé si c'était un record ou pas, alors on est très loin encore du record, même si 6 de suite c'est quand même pas mal du tout. Donc 6e de suite pour Red Bull, 4e pole position pour Mark Webber, 11e pole position pour Red Bull, 166e pour Renault, à une vitesse moyenne de 162,869. C'est Monaco.
Voilà.
Voilà. Alors que dire de plus? J'ai envie de dire, cette semaine, il n'y a pas vraiment de place du con. Enfin, c'est difficile d'attribuer une place du con parce que, mais non, on a les 6 nouvelles équipes et on a Alonso. Mais bon. On peut pas dire qu'Alonso a défendu vraiment ses chances.
Ouais, c'est vrai.
Bah, c'est un peu nul, quoi.
Ouais.
Non, mais là, sur le coup.
Ouais.
Voilà.
C'est le pilote qu'on a le plus vu de la qualif, puisque quasiment toutes les 30 secondes, on avait un plan sur Alonso faisant la gueule en train de regarder.
Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que la tronche d'Alonso, au début, il avait pas l'air trop gêné. Mais vers la fin, quand tu vois que Massa faisait des temps, etc., il disait « Merde, j'ai quand même loupé le casse, quoi. »
Ouais, ouais. Passons à la course. Passons au gros morceau.
Ah, c'était rapide, cette qualification.
Bah, en même temps, ouais, je sais pas, à moins que vous vouliez rajouter des choses sur cette qualif.
Bon, on peut quand même signaler la performance de Robert Kubica, quand même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Qui a été, si le tour de Weber pour la pole a été impressionnant, sur toute la qualif, Robert Kubica a été très impressionnant.
Avec au final même un triplé, 3 premières places moteur Renault.
Oui.
Ah oui, la Renault, bon, on l'a pas peut-être moins bien vu avec Petrov, mais en tout cas avec Kubica.
Oh, Petrov a pas été mauvais.
Hein. Ah oui, c'est vrai, il courait Petrov.
Non, Petrov, honnêtement, Petrov il a été discret parce qu'on l'a pas beaucoup vu et voilà.
Ah non,
Mais il s'en est bien sorti. Il était jamais très très loin. Le problème, c'est que les écarts sont tellement serrés que il prenait 7-8 places. Mais en performance, il était à quelques dixièmes seulement de Kubica. Et pour un débutant qui découvre Monaco avec une F1, même s'il découvre pas Monaco, oui. c'était pas. Il a pas été ridicule, contrairement à d'autres.
Mais non.
Bah, Hülkenberg. Hein.
Oui.
Moi, je balance. Moi, je suis un fou.
Non, mais il paraît que c'est pas de sa faute qu'il a perdu son aileron.
Non, non. Il a juste tapé quelqu'un au leu, c'est...
Ouais.
C'est pas non plus...
C'est vrai que c'est rare hein, ce qu'on a vu. Enfin, il l'a fait en beauté dans le premier tour. En plus, c'est vrai que dans le tunnel, il y a rarement des incidents. Enfin, ces dernières années.
Moi, honnêtement, j'ai envie qu'on lui fasse signer un contrat avec le junior team Ferrari.
Ah.
Vu comment il a aidé Alonso ce week-end, il faut quand même dire qu'il a aidé Alonso sur sa course, donc...
On pourrait.
Passe à la course ?
Bah bien sûr. Yes.
Les auditeurs ont cité au total 13 pilotes. Relativement serré. Et au final, sur les 4 votes qui comptent, on en a cité 12. Je vais noter notamment Di Grassi qui a été noté par Enzo. Enzo l'a mis à la 9e place. Et j'ai envie de te dire, Enzo, pourquoi as-tu mis Di Grassi ?
Juste parce que c'est pas parce qu'on a une voiture de merde qu'il faut pas défendre sa position et moi sincèrement bon il s'est bien battu contre Alonso donc
voilà, ah bah il était tout à fait dans son droit hein.
Moi je voilà c'était pour on a critiqué parce que Alonso avait il a retardé Alonso mais bon j'ai trouvé que c'était une belle bataille, ça m'a rappelé Bertoldi
Bertoldi
là qui bloquait Coulthard pendant
exactement, ouais.
Beaucoup de tours à Monaco. Même la moitié de la course, je crois. Mais bon, voilà, quoi. Donc, voilà, j'ai voulu le mettre. Mais comme il est pas retenu, je suppose. J'allais pas le mettre quatrième pour qu'il soit retenu, quand même.
Ah oui, tiens, d'ailleurs. Je dirai après.
Et à noter un autre qui se retrouve en dehors du classement, mais ça s'est vraiment joué à très très peu. C'est Liu Zi. Malgré le fait que je l'ai mis huitième. Yannick, Dino, par contre, tu ne l'as pas mis.
Non.
Enzo, tu l'as mis 10e. Les auditeurs l'ont mis 8e. Alors, c'est peut-être le vote de Dino, enfin, l'absence de vote qui fait qu'il rate à rien la 10e place.
Sans doute, ouais.
Sans doute.
Méchant.
Non, mais justement, il faut quand même que j'explique. Je l'ai d'ailleurs mis dans le mail que j'ai envoyé à Shinji. Avant d'avoir n'importe quelle polémique, même si je pense pas que mon classement va se faire hérisser des cheveux, mais depuis plusieurs Grands Prix, je respecte un minimum le classement de la course, etc., et j'adapte un petit peu. Là, j'estime à Monaco quand même les trois quarts, si c'est pas les 4/5 du boulot, sont faits dès la qualification, et donc j'ai voulu particulièrement mettre en avant tous ceux qui ont montré quelque chose sur ce circuit. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à Di Grassi que j'aurais pu mettre. Même si j'ai trouvé qu'il insistait un petit peu trop et que il avait pas forcément intérêt finalement à lui se foutre dehors parce qu'il a pris des risques à un moment donné à lui se foutre dehors pour résister à quelqu'un qui allait quoi qu'il arrive le doubler. Mais voilà, donc j'ai mis en avant des pilotes et il y en a certains. Liu Zi, je l'ai pas mis pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai pas vu de la course et que voilà, le mettre juste parce qu'il a fini dans les points à Monaco, bah c'est bien, mais en même temps il s'est qualifié au bon endroit, il finit au bon endroit.
Oui, mais aussi pour son casque. Il avait un joli casque.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est ce qui a quand même contribué à agrandir le fossé stylistique entre lui et Suti.
Oui, ça c'est clair.
Yuji serait un beau casque. Lui.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai fait le dessin sur Yuji, quoi.
T'as fait un dessin sur Yuji?
Non. Ça fait des mois que j'ai pas fait de dessin.
Tu vois, je crois que c'est pour ça que Dino et moi, on a eu un blanc, c'est dit merde, dans quel dessin?
T'as envie de dessin? Ah, moi, je suis déjà sur internet en train de regarder, ça m'a fait peur.
Il y a quelqu'un qui me demandait si j'étais mort.
Oh.
J'ai reçu un commentaire.
Mais bien sûr, en fait, là, on est juste avec des enregistrements des os. Qu'on remonte à chaque émission.
Ça pourrait être quelqu'un qui usurpe mon identité. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais retrouver son nom pour le rassurer des fois qu'il nous écoute. Il s'appelle Jali.
Il t'envoie un mail pour te dire, est-ce que tu es mort? En attendant que tu répondes.
Il me dit, tu es mort ou quoi? Voilà.
Dans ce cas, tu envoies un mail en disant, bah oui. Ah oui, mais c'est réponse, donc.
Il faut dire que dans beaucoup de contributions qu'on a reçues la semaine dernière pour l'émission de Barcelone, on a eu beaucoup de commentaires comme quoi tes dessins manquaient, etc.
Oui, c'est vrai.
On en a parlé pendant l'émission, mais j'ai coupé au montage parce que.
Ah bah voilà, ça m'aurait fait plaisir.
Voilà,
j'allais garder.
Et maintenant, tu as tout coupé.
J'ai pas cité les commentaires, mais j'avais encouragé les gens, et je le refais là, puisque je pense qu'il y a moins d'impératifs de temps dans cette émission, pour encourager les gens à aller sur ton blog, même s'il n'y a pas de site, même s'il n'y a pas de dessin actualisé, à aller sur les anciens dessins, laisser des commentaires, etc., pour te redonner la pêche et l'envie de refaire des dessins. Bon, si vous voyez pas de réaction d'ici deux semaines, appelez le médecin.
Oui. Ou envoyez-lui un mail pour savoir s'il est mort.
Voilà, s'il répond pas, c'est... Pas forcément qu'il est mort. C'est juste qu'il répond pas.
Voilà. Allez. Donc, à la 10e place, le pilote allemand, lequel, vous allez me dire, c'est Nico Rosberg.
Ah, je l'ai oublié.
Oui, non, tu l'as mis 8e, les auditeurs l'ont mis. Les auditeurs l'ont mis 9e. Dino l'a mis 7e et moi je dois reconnaître que c'est un peu mon 11e, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai pas mis.
Voilà, directement je l'ai pas mis, parce que c'est un peu voilà. Mon 11e.
C'est une belle excuse.
Non, mais d'un autre côté je te comprends.
Ah non mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour ton explication Dino avec Ludy, c'est que voilà, je l'ai pas vu,
ouais.
Donc j'y ai pas pensé.
Mais c'est un peu le sur ce Grand Prix, on a eu allez, moi je vais dire honnêtement, j'ai 4-5 pilotes qui se sont fait remarquer et le reste je les ai mis juste pour voilà, pour histoire de les mettre quoi, parce que ils ont fait le boulot quoi.
Quand je vois les votes, en effet, il y a on va dire il y en a 6, même si après il y a beaucoup d'écart, mais il y en a 6 peut-être qui se détachent, on va dire. Dont 3.
Oui,
il y en a 6 ou 3.
Et il y en a 6, dans les 6, il y en a 3.
Voilà.
Et dans les 3, il y en a 1. Il y a
3 du groupe de 6.
Voilà. Et dans les 3, il y en a 1.
Voilà.
Sur les 10, tu veux dire.
Exactement.
Et dans les 1, il y en a combien?
Des 10 qui font partie des 24.
Moi, je me rappelle une époque où on se foutait de ma gueule. Tu t'embourbes, Dino, arrête. Et maintenant.
Quelque chose à dire sur Rosberg?
Bah, je l'ai bien placé. Oui, vas-y, Enzo.
Non, il me demande de redémarrer. Non, je vais dire non.
Non, moi, je l'ai mis en meilleure position. Rosberg, il a montré des bonnes choses sur l'ensemble du week-end. Il a confirmé ses bonnes dispositions pour Monaco. Il a confirmé aussi qu'avec une voiture à sa convenance, parce que la voiture était en pattement court, lui convient, semble-t-il, mieux. Il était meilleur, même si on a vu que Schumacher faisait quasiment jeu égal. Il a été bon en essai, il a été bon en qualif, il a apparemment un peu gêné Schumacher, d'après ce que dit Schumacher. Moi, ce que j'ai surtout apprécié avec Rosberg, c'est qu'il a pris un risque à un moment donné de rester en pneus tendres et usés, au moment où tous les autres prenaient des pneus durs. Il a fait forcing pour essayer de signer des temps et passer Schumacher, voire passer Massa à la stratégie du changement de pneus. Ça a pas marché, mais au moins il a essayé. Et en même temps, c'est quelque chose de négatif parce que peut-être que il se concentre un petit peu trop maintenant sur son coéquipier et que ça l'évite d'avoir la vue large. Et peut-être que le changement de voiture pour Barcelone a fait que Rosberg s'est davantage replié sur son équipe et sur l'objectif bien se démarquer par rapport à Schumacher.
Enzo?
Non, pas plus.
Enzo, il a non, mais
oui, il s'occupe de son PC, oui. Mais bon.
Non, il est un peu transparent, Rosberg.
Oui.
Il fait des bonnes courses, mais voilà quoi.
Bah depuis l'Espagne, c'est moyen.
Oui, mais bon. Et depuis le début de l'année, on le voit pas.
Ouais.
À la 9e place, Lewis Hamilton, que j'ai mis 9e, que Dino a mis 9e.
Putain.
Kenzo a mis 7e, et que les auditeurs ont mis 9e. Hamilton qu'on n'a pas spécialement beaucoup vu lui non plus. Hein.
Non.
Et moi, il a même failli passer à la trappe, Hamilton. Hein. Parce que j'étais même déçu, parce que quand je repense à la course qu'il nous a fait l'an dernier, après avoir tapé, il se déchire pour gagner la course. Et là, je mets en commentaire, parce que j'ai refait une feuille où j'ai mis mes commentaires, j'ai écrit « Voilà bien un gars que je ne m'attendais pas à ne pas voir pendant ce Grand Prix. Course solide, mais anonyme. » Et s'il y a bien un pilote que je ne m'attendais pas à voir faire une course anonyme, c'est lui, quoi. Il nous a mis le feu depuis le début de saison, et là, je suis quand même surpris de voir que j'ai l'impression qu'il s'est contenté de sa place. J'ai dit, voilà, cinquième, c'est bien, j'y reste. Et il est resté dans son petit cocon, en attendant.
C'est d'accord. Oh, il est là, au final.
Ouais, ouais.
Mais... Oh, il est là. Je pense que peut-être qu'après Barcelone, il s'est dit, vaut mieux pas trop attaquer, vaut mieux... En même temps, c'est peut-être l'intelligence de course. Vaut mieux, il savait que Button avait perdu des points, il se dit voilà, je vais finir cinquième, je vais marquer, je crois que c'est 10 ou 8 points, c'est 10 points, je vais reprendre les 10 points que j'ai perdu sur Button à Barcelone, je vais revenir à la situation au soir du Grand Prix de Chine par rapport à lui, donc bon, pas plus mal, et il s'est contenté de ça. Hamilton qui se contente d'un résultat, je suis pas très fan.
Il faut noter que cette McLaren, bon, au-delà du simplement du F-Duct, a pas l'air très à l'aise sur des circuits un peu typés urbains. Ouais. Visiblement, elle préfère quand même les longues lignes droites, les circuits très rapides. Outre ouais. Le F-Duct. Donc, c'est un peu les plus sur les qualités même de la voiture.
Voilà. C'est peut-être même l'une des premières années depuis bien longtemps qu'on n'a pas senti, enfin, à exception faite de l'année dernière, qu'on n'a pas senti de la McLaren. C'est généralement son jardin, comme Monaco, depuis les dernières années. Oui. Et là, c'est vrai que McLaren n'a pas du tout semblé vraiment à son avantage. Ils n'étaient pas mauvais, mais... toujours devancé par Ferrari qui a été très forte en essai, par Red Bull, par Renault. Enfin, par Kubica.
Très bien. Alors, suite du classement, devinez quoi, c'est des ex-aequo.
Oh.
À la 7e place ex-aequo, ils auront tous les deux 6 points. Sutil, alors que j'ai mis 7e, que Dino a mis 10e, que les auditeurs ont mis 7e, et que bah, Enzo, il a dit non.
Bah, j'en avais d'autres.
De toute façon, on va voir les mêmes, Enzo.
Mais non, mais je les ai déjà dit. Moi, j'ai dit Grassi, j'ai lui dit...
Oui, ah oui.
Ah d'accord.
Et toi, Dino, que pourrais-tu dire de ce style?
Bah, il a fait une course propre. Il est toujours à son aise à Monaco. Je me rappelle, quand il est arrivé chez Force India, je crois, il y a 2 ans, il avait fait le meilleur temps des essais libres 3 sous la pluie. Il avait été très fort et voilà, il est plutôt à son aise à Monaco.
J'ai envie de dire, c'est normal qu'il marche cette année, Kimi n'est plus là.
Mais bon, il a gagné des places au départ, je crois, parce que Hülkenberg s'est foiré, donc il gagne des places sur ça au départ. Et après, bon, il fait une course solide à Monaco. Maintenant, il n'a pas été particulièrement entreprenant en course. Donc moi, je l'ai pas vu. J'ai vu aucune des deux Force India. Donc je veux bien les mettre dans le classement. De là à les mettre en disant non, chouette, ils ont fini des points. Non.
Mais une bonne qualité globale quand même pour ces Force India qui mettent leurs deux pilotes dans les points.
Bah surtout sur un circuit où on sait que l'an dernier c'était pas leur
oui, c'était tout le contraire.
Fort, quoi. Avoir de l'appui comme il en faut à Monaco, quand on sait où elles ont gagné, où elles ont failli gagner l'an dernier, on se dit que oui, effectivement, c'est pas leur type de tracé. Et c'est encourageant, ça veut dire que c'est une équipe qui pour le moment est bonne un peu partout, sauf à Barcelone.
Ouais. Et donc ex aequo avec Sutil, c'est Barrichello. Alors Barrichello que j'ai mis 10e. Kenzo, tu as décidé de ne pas mettre. Que les auditeurs...
Oui, Rubens Barrichello. Un Brésilien.
Que les auditeurs n'ont pas mis, ça s'est joué à un point. Il a failli être 10e. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait que Barrichello soit là? Parce qu'avec un point par Shinji, il n'aurait pas dû rentrer. Et vous avez raison. Dino, peux-tu nous dire à quelle place tu as mis Barrichello?
Je l'ai mis 4e.
Je ne veux plus participer à ce truc.
Alors honnêtement, je l'ai mis quatrième, et c'est vraiment pas du tout pour le faire monter. J'ai fait mon classement sans lire les classements des autres. Mon raisonnement, il est simple. Moi, pourquoi j'ai mis Barrichello? Parce que d'abord, il fait un bon départ. Il fait une bonne qualif, où il montre que la Williams est plutôt bonne, il confirme que la Williams est généralement bonne à Monaco. Il fait une bonne qualif, il fait un bon départ, puisqu'il passe devant Rosberg et il passe devant Schumacher. Il va leur tenir, il va tenir le rythme des cadors au début de course. Et s'il abandonne, c'est sur une casse mécanique. Donc, voilà, honnêtement, sur ce coup-là, j'ai pas envie de le mettre derrière Schumacher. Voilà, moi, il fait partie des pilotes qui ont montré quelque chose. Il a fait un bon départ, il a fait un bon début de course. Il est sur une dynamique super positive. Quand on voit ce que fait son coéquipier à côté, avec des erreurs, etc., où c'est imprécis, bah lui, il montre, avec Schumacher, il montre que il a toujours des restes, quoi. Et je suis pas du genre à le défendre, mais là, sur ce coup-là, j'avais envie de saluer sa performance.
Vous croyez qu'il va devoir le rembourser, le volant?
Oh bah. Donc heureusement que Williams n'a plus le prestige d'avant qui aurait pu amener des joailliers à avoir des VDT.
Des diamantaires.
Oui.
Quoique du coup, pour HRT, ça aurait été un gain d'argent.
Ah oui.
Parce que 2-3 diamants coincés dans le diffuseur, ça aurait peut-être aidé l'équipe au lieu de Bernie Ecclestone.
C'est pas faux.
Non mais le volant, il l'a fait par peur, à l'endroit où il sort.
C'est aussi un peu de la colère. Allez, la suite du classement. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'il y en a dans la suite du classement?
Les ex-échos.
À la cinquième place, donc ils ont tous les deux 10 points. Sébastien Vettel, que les auditeurs ont mis cinquième. Kenzo a mis cinquième. Moi, j'ai mis quatrième. Et Dino, toi, tu l'as mis huitième.
Oh bah
tu te distingues cette semaine.
Oh non mais attendez, Vettel, qu'est-ce qu'il a fait?
Rien.
Ah, rien.
Il a sur le doublé.
Voilà.
Il a sur le doublé, mais il s'est pas montré de tout le week-end. Il s'est pas montré une seule fois à son aise, quoi. Le moment où, honnêtement, moi, je suis arrivé en qualif, je me suis dit, la qualif, je la sens pas pour les Red Bull. Et c'est Weber qui sort le tout pour faire la pole. Mais sinon, jusque là, les Red Bull s'étaient pas vraiment montrés à leur avantage en course. Il roule, alors on sait pas s'il protège la position de Weber, ce que j'ai du mal à croire, ou s'il se protège lui de Kubica, enfin, voilà, moi j'ai pas trouvé très intéressant, et honnêtement, moi il est loin parce qu'il y a d'autres pilotes que je voulais mettre devant, qui avaient montré des choses, et là il a rien montré de particulier.
J'ai peur de ce qu'on va voir devant.
Je t'ai mis 40 Shandong premier.
Notons, donc ex aequo avec Vettel, c'est Felipe Massa que j'ai mis 6ème, que Dino a mis 6ème, Kenzo a mis 6ème, et les auditeurs l'ont mis 4ème.
Moi j'ai mis un commentaire, j'ai mis tiens, il y a un deuxième pilote chez Ferrari.
Oui, c'est un peu sa première.
Ça, c'est pour que Sabri soit contente en plus.
Il commence un peu sa saison à Monaco, Massa.
Oui.
Bon, il a quand même mieux commencé sa saison qu'il l'a fait ces dernières années. Hein.
Oui.
Et ces dernières années, il avait tendance à faire un ou deux abandons. Là, il est quasiment tout le temps à l'arrivée. Il est tout le temps dans les points. Et moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il s'est enfin montré à son aise à Monaco. Cependant, malheureusement pour lui, il est comparé une nouvelle fois à un coéquipier qui remonte de la 24e à la 6e place et qui a dominé les essais du jeudi. Et en plus, il est aussi devancé par ses deux principaux rivaux pour le bac et Ferrari en 2011, à savoir Marc Weber et Kubica, qui ont montré encore plus de choses que lui. Donc il est vraiment dans la merde, le pauvre.
Et direct, ce qu'on se dit, c'est, voilà, si Massa a fait ça, mais qu'est-ce qu'aurait pu faire Alonso si c'était bien qualifié? Direct. C'est la première comparaison.
Bah, Alonso, il l'a dit, hein. Moi, je pouvais gagner. Mais c'est bien, il a été solide, il a pas fait d'erreur, Moi, honnêtement, on me demande aujourd'hui de choisir entre Massa, Weber et Kubica. Je garde Massa parce que, voilà, Kubica, il va peut-être faire plus, mais j'ai toujours une inquiétude quant à sa motivation. Et Weber, moi, j'ai quand même tendance à penser que s'il est performant, c'est aussi parce qu'il a la meilleure voiture en ce moment et que, voilà, c'est son opportunité. Il le sent et il tente sa chance. Massa, je pense juste qu'il traverse une mauvaise passe et que il est confronté à Fernando Alonso, quoi. Et ça doit pas être facile, surtout que Alonso, il a envie, il a qu'une seule envie, c'est lui, c'est de rétablir la situation comme elle était chez Renault, c'est de bouffer son coéquipier tout de suite.
Non, mais c'est terrible parce que Massa fait des courses normales, bien placées. Alonso, à chaque fois, il lui arrive des merdes, et il fait des courses de malade.
Ouais. Mais c'est ça aussi, hein, c'est que Alonso depuis le début de saison, il a eu un nombre de pépins et donc il est plus facilement placé dans des situations où il peut se montrer. Donc voilà, c'est sûr que là, honnêtement, Alonso, ça remontait, elle est spectaculaire par le nombre de places qu'il gagne. Mais bon, il double.
Dans la manière, il double pas grand monde. En
voilà, il double les Lotus, il double les HRT, il double les Virgin et après il double tout le monde au stand. Voilà, donc il se met en valeur par le nombre de places et par le bon qu'il fait dans le classement et sur la piste. Mais en dehors de ça, sa course, elle est quasiment identique à Massa. Hein.
Ce qui prouve aussi même le talent des ingénieurs de Ferrari qui ont dû quand même limite reconstruire une voiture.
Ouais. Hein.
Donc remettre tous les réglages. Parce que la voiture de dimanche, elle a pas roulé, presque on peut dire, hein, parce que c'était une nouvelle monocoque et tout. Et enfin, il aurait pu avoir des soucis à ce niveau-là, et elle a roulé comme une horloge. Mmh. On passe à la quatrième place.
Bon, bah, c'est facile. Alors là, bah, je peux dire que le premier, je l'ai collé dans l'ordre.
Et on passe par le premier gros morceau de l'émission. Peut-être même le plus gros, je ne sais pas.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Je l'ai mis cinquième. Oui.
Non, rien. C'était la remarque de Dino.
Oui, c'est Dino. Je l'ai mis cinquième. Les auditeurs l'ont mis sixième.
Mais ils l'aiment pas, les auditeurs.
Enzo, tu l'as mis quatrième.
Ah bon, je pensais vraiment être le seul à le mettre si haut.
Dino, tu l'as mis cinquième.
Ouais.
C'est le septuple champion du monde.
Ah. Et le double champion du monde de la race casse.
Le double champion du monde. Celui qui est au centre de toutes les polémiques ce week-end, c'est Michael Schumacher.
Wouh, il est de retour. Ah.
Qui fait, alors, faut le dire, la course globalement, à l'exception du dernier tour, hein, on est bien d'accord.
Et du premier, le départ. Il double Nico.
Oui, Nico. Bon, la grande majorité de la course, il fait pas spécial. Enfin, il fait une course bien, mais pas non plus extraordinaire.
Oui, enfin sur un circuit qu'on redoute toujours parce que il est fatigant, etc. Il a 41 ans, il arrive à tenir le rythme et avoir assez de force et d'énergie pour arriver dans le dernier tour à tenter une manœuvre de dépassement sur Fernando Alonso. Il a montré qu'il était honnêtement, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il a montré
sur l'endurance, c'est une bonne remarque.
Et surtout sur l'endurance et sur la forme physique, il avait rien à envier aux jeunes, quoi. Il était super performant. Au niveau de la force, voilà, il a fait Monaco comme il aurait fait Monaco, je pense, il y a encore 10 ans.
Ah oui. Alors, sur cette affaire, je veux vos opinions. Est-ce que cette pénalité, c'est juste ou injuste? Est-ce qu'il méritait cette pénalité?
Non.
Dino? Je veux un oui ou un non?
Oui.
Oh oui. Oui. Non, je suis sûr qu'en fait il pense non, mais il dit exprès oui parce qu'il sait que nous on va dire non.
Non, même pas. Non, je dis oui parce que je pense oui. La question est complexe, mais j'ai des arguments.
Moi, je pense que c'est injuste. Moi, je pense aussi que.
Moi, je pense qu'elle est, disproportionnée.
Oui. Déjà sur la nature. C'est vrai que on est d'accord. Dans les textes, il a pas le droit. On est bien d'accord. Ça, c'est clair. Le même l'article.
Ouais, mais...
Non, l'article est quand même assez clair. Ça, il n'y a pas de...
Alors, on peut quand même le rappeler, l'article, c'est le fameux article 40, alinéa 13 du règlement. La partie du règlement consacrée au safety car. Et effectivement, on en a parlé un peu plus tôt cette saison, il y a une nouvelle règle concernant la safety car. Vous avez la ligne de départ arrivée, et juste avant le dernier virage, juste avant l'entrée des stands, vous avez la ligne de chronométrage et de sortie des... pas la ligne de chronométrage, mais la ligne de sortie du safety car. Et donc, depuis cette année, on a le droit, quand le safety car sort, de s'attaquer à partir de cette ligne.
Voilà. Donc,
sauf que dans le dernier tour, quand la safety car est présente dans le dernier tour, afin d'offrir une arrivée sous drapeau vert, une arrivée qui ne soit pas une arrivée sous drapeau jaune et qui manque de panache, etc., la safety car s'efface, mais il y a une sorte de gentleman agreement qui est codifié par le règlement, qui dit on ne dépasse pas. Voilà, et c'est pour ça que moi je dis la pénalité elle est juste. Il y a un règlement, le règlement, tout le monde l'a lu, on sait que les pilotes ont demandé, Mercedes apparemment n'a pas lu le règlement, la faute elle est de Mercedes, et voilà, il y a un règlement qui dit, quand la safety car rentre dans le dernier tour, bah, on ne peut pas dépasser, voilà, c'est un défilé juste pour offrir une arrivée digne sous drapeau vert. Qu'il y ait drapeau vert ou drapeau jaune, on a souvent dit que on a montré des photos, les journaux allemands, il y a même Sato Kamikaze qui a mis des photos sur le blog comme quoi il y avait drapeau vert, drapeau jaune. Non, le règlement il dit voilà, une course qui se finit sous safety car jusqu'au dernier tour, même si la safety car rentre, il n'y a aucun argument à valoir contre, la course est toujours considérée sous régime de safety car jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà. Qu'il y ait drapeau jaune, vert, violet, rose, marron, à petit poids ou à gros poids, peu importe, la course est sous safety car jusqu'à la ligne d'arrivée.
Ouais, donc pour Dino, les drapeaux, ça sert à rien.
C'est pas les drapeaux, non, mais c'est pas les drapeaux, mais c'est que, ils ont eu à la limite raison de tenter le coup, mais le règlement, il est clair, il y a écrit dans le règlement que la course, elle est considérée comme se finissant sous safety car, même si le safety car rentre dans le dernier tour. Parce que voilà, le règlement, il est comme ça.
Et
ils
m'ont... Vas-y Enzo.
Non, je disais, je pense pas qu'ils ont tenté un coup, quoi.
Je pense qu'ils étaient vraiment de bonne foi. Ça, Mercedes, ils ont vraiment cru qu'ils avaient la possibilité.
Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'ils ont pas lu le règlement.
Ils vont pas sortir le règlement.
Non, je suis désolé. Moi, dernièrement,
on leur indique track clear et les drapeaux sont verts.
Non, je suis désolé. Moi, dernièrement, j'ai vu une course de WTCC, championnat du monde, hein, course au Maroc, deuxième course, course neutralisée par un accident, voiture safety car, etc. Le départ est relancé à deux tours de la fin ou à un tour, je sais plus. Et là, dans les stands, il y avait tous les mecs, tous les chefs d'écurie qui avaient sur leur tablette le règlement, qui étaient en train d'éplucher pour le règlement pour voir ce qu'ils avaient le droit de faire. Pour dire, voilà, est-ce qu'on peut pas essayer de gagner un coup sur le règlement, préparer le terrain, quoi. Toutes les écuries ont dit à leurs pilotes, non, on dépasse pas. Il y a que Mercedes qui a rien dit. Alors, est-ce que, je dis pas, voilà, mais je dis pas qu'ils l'ont fait exprès ou, mais, c'est quand même des équipes, surtout Ross Brawn qui a quand même l'habitude de lire les règlements, qui je pense le connaît par cœur, il était quand même conscient de ce fait-là. Alors oui, ils se sont laissés berner par le fait qu'on leur a dit piste ouverte, drapeau vert, etc. Mais s'il avait le règlement dans sa tête, il fallait qu'il se dise, bon bah le règlement dit ça, je risque de me faire gauler. Ils ont tenté le coup, à la limite, il a eu raison de tenter le coup. Maintenant sur la pénalité, elle rentre dans les clous du règlement. Malheureusement, elle tombe.
Moi, je la trouve injuste parce que sous drapeau jaune 20 secondes, à la rigueur, on lui aurait remis sa place, on l'aurait déclassé d'une place, j'aurais trouvé ça un peu plus juste. Mais quand on voit, on en a parlé des autres fois, l'attitude de certains pilotes et Hamilton, pour pas le citer, lors de certaines courses où il y a eu zéro pénalité. Là, on dirait que d'un seul coup, ils sont réveillés et ils collent 20 secondes quelque part, lui flingue carrément sa course. C'est un peu dégueulasse.
C'est clair que là, 20 secondes, c'est le plus... C'est terrible, quoi. Je veux dire, on est à Monaco, ils sont sous drapeau jaune, ils sont tous rapprochés. Voilà, quoi. Je veux dire, on prend le classement officiel, les 11 premiers sont en 9 secondes et t'as Michael Schumacher plus 25.
Mais
à la rigueur, on aurait quasiment pu le disqualifier, ça aurait rien changé.
Mais On revient au débat qu'on a eu, je crois, dans l'émission et qu'on a eu deux fois après le problème du weaving d'Hamilton en Malaisie et après la course en Chine. On revient au problème de, certes, c'est bien d'avoir des pilotes qui interviennent. Maintenant, on n'a aucune cohérence dans les pénalités. Et l'exemple de Schumacher est évident, d'autant plus que quand on sait que le commissaire, c'est Damon Hill, ouais, avec qui il y a un passif avec Schumacher. Et Damon Hill lui-même l'a dit, moi je pense que j'ai pris une sanction juste. Et d'ailleurs, il a rajouté, cependant, j'avoue que j'ai été gêné d'avoir à prendre cette décision. J'ai été gêné d'être un commissaire. J'aurais préféré être conseiller, ne pas avoir une voix qu'on me demande de dire voilà, est-ce que c'est légal ou pas légal. J'aurais préféré juste qu'on me demande mon opinion sans me donner un pouvoir de sanction. Et il a dit voilà, qu'il a été gêné et que sans doute lui ne renouvellera pas l'expérience.
Et c'est vrai qu'Enzo a raison. C'est vrai que si à la rigueur on avait juste dit à Schumacher, à Mercedes, bon, vous aviez pas le droit, mais c'est vrai que vu les circonstances, on annule juste le dépassement, vous finissez 7e. On se serait quand même posé la question sur ce point de règlement, mais ça aurait pas, tout le monde aurait été plus ou moins d'accord. Et d'ailleurs, le point de règlement va être discuté au final.
Oui, parce qu'en plus
parce que c'est pas forcément, enfin, ils vont essayer de le clarifier, je suppose. Il y aurait une façon simple de régler le problème de ce point de règlement, ce serait de le supprimer. Et en fait, en fin de course.
Qui laisse la voiture jusqu'au bout, quoi.
Voilà, non mais voilà, si tu supprimes ce point de règlement du dernier tour.
En Canada, voilà. Il est arrivé.
Voilà, exactement. Si tu supprimes ce point de règlement, il n'y a plus que deux possibilités. C'est soit on finit sous safety car, point. Et honnêtement, si c'était arrivé là à Monaco, personne n'aurait trouvé ça scandaleux.
Tout à fait.
Ou bien il y a un restart. Mais là, il y a vrai restart et on autorise. Mais voilà.
C'est Monaco quand même. Tu t'imagines, toi, vendre Monaco en sachant qu'à la fin, la course, ça s'est fini sous safety car. L'image, elle est pas bankable. Non mais.
Eh ben, tant pis, c'est pas quelque chose qui arrive non
mais
plus.
On est bien d'accord. Mais moi, je défends. J'essaie d'analyser la situation sans mettre mon opinion personnelle. Mais t'imagines, toi, Bernie Ecclestone, il laissera jamais faire ça. C'est pas possible.
Mais attends, Bernie, déjà, ça n'a rien à voir avec tes commissaires, je suis désolé.
Non, mais c'est pas question de... C'est par rapport au règlement que je dis ça.
Sur d'image.
Monaco n'a pas à être bankable, c'est bon. C'est déjà mis comme course, quoi. C'est bon.
Non, mais justement, c'est parce que c'est la plus belle course de l'année. C'est voilà.
Oh là là, faut absolument que la première voiture passe sous le drapeau.
Voilà, faire une belle arrivée. Moi, honnêtement, je suis parfaitement pour. Il y a un système aux États-Unis. On va revenir sur la NASCAR parce que c'est une source d'inspiration parfois. En tout cas pour moi, en NASCAR, il y a ce qu'ils appellent le shootout. Quand il y a un accident dans les deux derniers tours, ou même un peu avant, on garde deux tours. Pour dire, voilà, on va laisser deux tours libres sans safety car, on va faire rouler la safety car, mais on garde deux tours pour que les voitures et les pilotes puissent vraiment se bagarrer pour l'arrivée. Et voilà, c'est histoire d'avoir une arrivée.
Ouais, ce que tu oublies de dire, c'est que souvent, ils sont tellement nerveux que c'est pas un shutout qu'on a, mais trois.
Non, mais je parle d'avant, mais je parle juste du principe. Après, ils ont été faire une règle à la con qui fait que maintenant, t'as le droit de multiplier les shutouts jusqu'à avoir 15 tours en plus. Le sport auto aussi, quand même, le plus beau moment d'un sport auto, le grand moment d'émotion, c'est aussi, et le moment le plus télégénique, c'est aussi l'arrivée. On a une question top opposition cette semaine par rapport au Grand Prix d'Espagne, qui parle de l'arrivée d'un Grand Prix, une arrivée spectaculaire. Une arrivée à Monaco, moi personnellement dans mes sentiments, je préfère quand même la voir, même si je sais que la course est neutralisée, la voir ou voir les pilotes libres terre en vert en me disant voilà, pour la postérité, on gardera l'impression que ce mec-là il l'a pas gagné juste à cause de la safety car mais qu'il a gagné pour sa course, plutôt que de voir la safety car juste devant.
Dans ce cas, Dino, on remet la ligne, on enlève la ligne en entrée de stand, on la remet à la ligne d'arrivée, et là il n'y a plus de soucis. Puisque quand la voiture rentre, on est toujours sous statut safety car, donc il n'y a pas de dépassement, et en même temps, on n'a pas d'arrivée sous safety car, entre guillemets. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand c'est arrivé, j'ai repensé au pronostic que j'ai fait lors de la dernière émission.
T'as pronostiqué.
Tu te souviens, alors, car, oui. Tu as pronostiqué la safety car. Sur le coup, je me suis dit, oh là là, je suis trop fort, je vais pouvoir me la péter lors de l'émission. Mais bon, ça s'est passé autrement. Quelque chose à rajouter sur Schumacher?
Non.
Moi j'ai bien aimé pendant cette course.
Moi j'ai bien aimé ça. Hein.
Ouais. Ah ouais.
Alors, on arrive au podium avec en troisième position. Et c'est bien simple. On l'a mis tous les trois troisième. Et les auditeurs l'ont mis troisième. C'est l'Espagnol qui réussit donc un plus 18.
De la Rosa.
Hein? Non, j'ai dit plus 18.
Oui, plus 18 ans.
Ah, aussi. Non, je pensais que t'avais confondu avec moins 18, c'est pour ça.
Non, non, non.
C'est donc Fernando Alonso, qui globalement, même chez les auditeurs, a souvent été mis, oui, troisième, parfois même deuxième.
Même
sauf
Bilo.
Sauf Bilo. Bilo qui l'a mis dixième. Mais en même temps, il a raison. C'est-à-dire que dit Bilo, c'est vrai qu'il a profité de l'arrêt au stand au premier tour. Il a doublé des HRT et des Virgin. Et puis, j'ai envie de dire, c'est tout. Mmh. Et c'est vrai et que c'est un peu ça.
Il tient jusqu'au bout quand même avec ses pneus.
Il tient jusqu'au bout.
Il a 77 tours.
Alors, même si Monaco, c'est pas le circuit qui bouffe le plus des pneus, même si Monaco, c'est plus court, c'est quand même pas mal.
J'ai fait les calculs, hein. Donc, 77 tours, c'est, en nombre de tours, c'est le record cette saison. Le record était détenu jusque-là, je crois que c'était 52 tours par Button en Australie. En kilomètres, par contre, Button, c'était 270 km en Australie, parce que le circuit est plus grand. 270 km, c'est l'équivalent de la distance du Grand Prix de Monaco,
voilà.
Avec le tour de chauffe. Donc, alors que pour Alonso, c'est 257 km. Donc voilà, mais quand on connaît la différence de style entre Alonso et Button, Alonso a fait une course.
Surtout au début, il a bien tapé dedans pour les attaquer. Hein. Je veux dire, il a fait que ça, on va dire, il a fait que le début de course, oui. Mais je veux dire, il est allé quand même au combat pour
passer, quoi. Hein. Il y a les dépassements qui sont jamais évidents à Monaco. Il y a une intelligence de course.
Il y a même eu, on a fait l'opération chat en direct du site du SAV. D'ailleurs, vous y êtes tous conviés pour le Grand Prix de Turquie. Pendant la course, donc, on discutait et à un moment donné, Alonso, perdant du temps derrière Di Grassi, dans la montée de Beau Rivage, s'est mis sur le côté de Di Grassi pour lui montrer qu'il était là, a essayé de passer à un endroit où on ne peut pas passer, et où lui-même le savait, et il a pesté avec son bras, comme on a souvent l'habitude de le voir faire Alonso, qui râle assez facilement. Et il y avait un débat entre moi et Sato Kamikaze sur le fait que voilà, Alonso s'énerve, c'est pas bien, il est trop impétueux, voilà. Et moi, je défendais Alonso en disant oui, mais il est double champion du monde, ça fait partie de l'arsenal des doubles champions du monde, enfin des champions du monde et des grands champions de l'histoire, d'être des intimidateurs, de jouer de l'intox. Voilà, Alonso sait très bien qu'il peut pas dépasser la Virgin dans Beau Rivage. Il se met à côté pour lui faire peur, il lève le bras et s'énerve contre lui pour lui dire attention, tu commences à m'énerver, je vais te foutre dans le mur. Il lui envoie un message, parce que c'est ce que font les grands champions. Ils ont tous fait ça, Schumacher l'a fait, je pense que Lewis a dû le faire une ou deux fois. Voilà, ça fait partie de l'arsenal des champions, c'est un outil d'intimidation qu'ils ont. Et justement, on peut quand même saluer Di Grassi qui s'est pas laissé avoir aussi facilement que ça.
Oui, très bien. Oui. Ah non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais.
Voilà.
Voilà, t'as entendu Sato ? Ils sont d'accord avec moi.
Non mais attends, on va pas dire le contraire, sinon on est reparti pour un quart d'heure.
C'est vrai.
On le connaît, nous.
On est salaud. Des choses à rajouter sur Alonso, final ?
Bah... Non, on a dit beaucoup de choses.
Non, mais si on avait pensé que Shinji, que Dino, on dirait tant bien sur lui.
C'est vrai. Les temps ont bien changé.
Mais c'est aussi parce qu'à l'époque, il était opposé à Schumacher, et moi, je défendais Schumacher, donc j'étais un peu aveuglé par Schumi, et voilà, et... Quand on est fan d'une écurie, on soutient avant tout les pilotes de son écurie. Moi, je me rappelle avoir défendu Schumacher aveuglément pour l'incident de la Rascasse. Voilà, aujourd'hui, Alonso fait pareil, je le défends tout aussi aveuglément. Et Schumacher fait pareil aujourd'hui avec Mercedes, mais je le pourris. Quoi. Parce que c'est aussi mon devoir de tifosi que de défendre mes pilotes et que de m'enthousiasmer quand ils le sont. Et c'est vrai qu'Alonso est le genre de pilote, quand il est en rouge, on peut facilement s'enthousiasmer pour lui.
Ouais.
Alors... À la deuxième place, j'ai envie de dire quand même le grand regret du week-end, c'est le Polonais Robert Kubica.
Dis la grosse mèche.
Dis la grosse mèche. Oh, je trouve qu'il a changé de coiffure, c'est un peu, ça le fait un peu moins maintenant.
Alors moi, j'ai commencé à écouter sur RMC parce que j'étais en bagnole. Pourquoi il l'appelle Bob?
Bah, Robert, Bob. Bob, c'est le diminutif de Robert.
Ah bon? Tu couperas ma question alors. Il y a des cons.
Oui, je l'ai mis donc deuxième, Dino l'a mis deuxième, tu l'as mis deuxième, Enzo, les auditeurs l'ont mis deuxième, c'est un plébiscite pour la deuxième place. Et globalement, les auditeurs l'ont mis, oui, deuxième, troisième.
Est-ce que Steph Core l'a mis premier ou deuxième?
Steph Core l'a mis deuxième.
D'accord. Steph Core nous, pendant le chat, Steph Core nous a beaucoup parlé de Kubica.
Ouais.
Il espérait quand même, même s'il a soutenu un peu Weber, il espérait quand même que Weber casse un truc
ouais. Que de regrets quand même, parce que Monaco c'est toujours un circuit particulier, mais bah la Renault elle a marché à la régulière, hein. Il n'y a pas eu de souci.
Ouais.
Ah non, c'est.
Bah voilà. Disons que la Renault elle a surtout bénéficié aussi c'est de son empattement.
Oui, oui.
Elle est très agile, bon voilà, mais aussi elle a bénéficié d'un pilote. Ce qui était rigolo, c'est qu'il se plaignait de ne pas avoir d'évolution pour Monaco. Il disait ouais, j'ai pas reçu d'évolution, je suis un peu triste, etc. Mais il a été monstrueux en qualif. Hein. Voilà, et il a fallu un grand Weber qui vienne avec sa voiture faire une 13-9. Bah voilà, clac, rien à dire. Mais même moi, je l'aurais mis premier. Hein. Mais je retire pas sa victoire à quelqu'un qui gagne à Monaco.
Non, belle course, puis c'est vrai que voilà, la régulière, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de casque qui aurait fait qu'il se serait retrouvé devant. Ah, c'est à espérer qu'il puisse rebondir malgré tout là-dessus, même si Monaco c'est quand même particulier.
Bah, c'est bon pour l'équipe quand même.
Oui, bien
sûr. Ça va apporter de l'argent, ça va apporter des sponsors, parce que tout le monde se dit, voilà, c'est quand même une équipe qui surprend, qui a beaucoup progressé depuis les essais, qui fait les choses dans le bon sens, qui a un bon pilote. Je pense que ça leur apporte déjà des partenaires, des sponsors, ça peut être que positif. Et derrière tout ça, c'est une dynamique économique qui va relancer le développement, qui va permettre à l'écurie de progresser. Et voilà, Renault, ils en sont déjà, maintenant, en tout cas, Renault, ils ont des arguments pour le retenir chez eux.
Oui. Mais je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent à rester chez Renault.
Bah.
Personnellement. Même si bon, c'est Ferrari. Moi, je pense que s'il veut être champion du monde, il a plus de chances de l'être chez Renault. Parce que honnêtement, avec Ferrari, oui, d'accord, il va avoir le matériel pour. Mais avec Alonso à côté, j'ai peur que s'il aille chez Ferrari, il se barricade.
Surtout alors vu sa propension, comme on l'a vu l'an dernier, à baisser les bras.
Voilà. Quand il alors est que, pour l'instant, c'est le cas. Il est en train de construire quelque chose avec Renault, et que s'il reste avec Renault et que l'équipe progresse, bah, il va être le nouvel Alonso, mais pour Renault. Il peut être le roi de cette équipe.
Mais déjà, c'est le cas. Hein. C'est très vite.
Oui. Imposé, c'est déjà le cas.
Bah, y a pas beaucoup de concurrents. Du moins, je n'enlève pas ce que nous a fait. Petrov, mais bon.
Oui.
Il est quand même, il y a une différence de niveau.
Ouais.
Oui. Mais voilà, ce serait dommage qu'il aille s'enfermer, même s'il sera avec son pote.
Moi, pour être complètement honnête, j'ai un peu de mal avec Kubica, moi. Je suis pas fan du personnage, du pilote.
Il a assez peu de charisme.
Voilà, ouais. ça c'est clair.
On va choquer quelques personnes.
Personne,
mais non. Comparé à Hamilton, Vettel, voilà, et Alonso, il est même Massa.
C'est ce que tu disais au début quand j'ai parlé de Kubica, c'est monomèche, quoi.
Ouais.
C'est tout sur Kubica?
On l'a déjà dit pas mal, hein.
Ouais, comme je te dis, moi je veux pas m'enthousiasmer sur Kubica de toute manière. Non, mais je dis comme je le pense.
Pourtant, il sera peut-être bientôt futur pilote Ferrari, il faut que tu prépares.
Ah oui.
J'aurais du mal. Alors, franchement, là, c'est un pilote pour lequel j'aurais du mal.
À moins que le nouvel équipier de Alonso l'an prochain, ce soit celui qui a fini premier du classement, classement, de la course.
Moi, j'aurais bien Blanqui.
Ah oui.
C'est l'année prochaine.
Pourquoi pas.
Ça serait quand même de la part de Ferrari.
Donner leur chance aux petits jeunes.
Donc, à la première place, Mark Webber qui a... Encore une fois, il a raté même pas le hat-trick, mais le chelem, puisqu'il a mené tous les tours du Grand Prix, mais il a pas eu le meilleur tour.
Ouais. C'est grâce à qui ?
Grâce à son cher coéquipier. Qui se décide à faire un meilleur tour au 71e.
Alors qu'il a été très long jusque-là.
Voilà.
Là, il s'est dit, ouais, bon, en tout cas, je montre que j'étais pas à chier sur le Grand Prix.
Mark Webber, dont on commence à se dire, ah, mais attendez, là, cette année, Mark Webber. Après tout. Bon, on peut dire ça pour beaucoup de gens, puisque le classement est tel cette année que... Ouais. Mais, bah, deux victoires, comme Button, tiens.
Qui l'eût cru ?
Bah oui.
Pour l'un comme pour l'autre.
Il est ex-aequo avec son coéquipier, avec deux victoires, avec une victoire en plus, autant de pôles. Mm. Les chiffres au sein de l'équipe sont plutôt en faveur de Webber. Hein. Tout ouais. En sachant quand même que c'est Vettel qui a toutes les faveurs de l'équipe.
Oui.
On le sait très bien, Webber, il y a Barrichello qui raconte dans F1 Racing que, à l'époque où il était chez Ferrari, une super interview de Barrichello, à l'époque où il était chez Ferrari, quand il y avait des réunions, toutes les chaises se mettaient autour de Michael Schumacher et de Ross Brawn, et que lui, il devait prendre une chaise, ou alors il disait, mec, vous savez, nous, on est de l'autre côté aussi, vous pouvez venir faire le débriefing avec nous, ça nous dérange pas. Et chez, faut être honnête, chez Red Bull, c'est à peu près la même chose. Moins établi, parce que Vettel a pas non plus le charisme et l'influence que peut avoir Schumacher, mais on sait très bien que le produit Red Bull et le bébé de Red Bull, c'est Vettel. Webber, c'est qu'une pièce rapportée dans l'industrie Red Bull.
Et comme par hasard, c'est maintenant qu'il commence à se dire chez Red Bull, ah, mais dites, pour l'an prochain, on pourrait peut-être le garder, Webber. Ça se trouve, il est bon.
Mais je sais pas si... Alors peut-être que j'anticipe, mais est-ce que Enzo, toi, tu as des exemples comme ça de coéquipiers qu'on n'attendait pas et qui finalement ont pris le dessus sur leur coéquipier, jugé plus talentueux, plus...
Bah déjà, chez... Oui, bon, c'était pas... Chez Williams, quand on a Zanardi et Ralf Schumacher, Williams avait fait signer un contrat à Ralf en disant qu'il fallait qu'il marque au moins 20% des points de Zanardi. Je crois que Zanardi a marqué 0 points, je crois. Ou il a explosé en tout cas. De mémoire, c'était en 98 chez Williams. Voilà, premier exemple, puisque Zanardi venait du kart, hein, des US.
Ouais.
C'est ce qui me vient à l'esprit. Pour le titre, à 99, mais c'est un peu particulier quand même.
Ouais.
Non, là comme ça, non, je pense pas. Bah, si le, c'est 2007, hein, forcément. Alonso, on pensait que chez McLaren, il allait quand même bouffer Lewis. Hein, mais... Non, j'ai pas d'autres.
Et puis aussi indirectement 2008, 20 ans.
Si, tu peux dire
Massa
2008.
Par rapport à Raikkonen.
Oui, tu peux le dire, oui.
Oui, tout à fait. C'est ça, en 98, Ralf a marqué 14 points et 0 pour son coéquipier. Bon, c'était pas une grosse équipe, hein, mais
voilà. Des choses à rajouter sur Webber ? Sur sa course,
La grande question,
c'est un peu comme en Espagne, hein, très solide.
Mais il est comme Robert pour moi. Il me fait pas rêver comme pilote, quoi.
À chaque fois il a su mettre de l'écart avec Robert, justement, et à chaque fois ça s'est retrouvé grillé par les safety cars.
J'ai l'impression que ils font des belles courses. Alors ça va être malheureux la comparaison que je vais faire, surtout pour moi, mais un peu à la Nico, quoi, c'est-à-dire ils sont là, mais je veux dire ça manque de panache, il manque quelque chose, quoi, il manque une petite étincelle qui fait oh putain, c'était vraiment une belle course, quoi. J'enlève rien à sa course, elle est très belle, mais il manque le coup de gagner parce qu'il a fait un truc exceptionnel.
Bah oui, en dehors du Grand Prix d'Angleterre, je crois, le Grand Prix d'Allemagne. L'année dernière où il gagne après être pénalisé.
Oui, c'est Allemagne.
Et bon voilà, ça, mais c'est vrai que ça fait partie de ces pilotes dont on dit voilà quand ils sont en pôle, ils vont faire le boulot parce qu'ils sont en pôle, mais c'est plus difficile s'ils sont derrière. Et il l'a montré d'ailleurs à Melbourne, hein, dès qu'il était derrière, ça devient du grand n'importe quoi.
Oui, puis des fois il est pas sympa non plus. Hein,
Ah non, ça vaut mieux pas être derrière lui. Hein.
Passer ou difficile à dépasser quoi. Mais bon, ça on peut pas lui reprocher, mais. Ouais, ça fait pas. Moi, il me fait pas rêver tant que ça, quoi. Que ce soit Weber ou Kubica chez Ferrari, effectivement, je vais rejoindre Dino. Je préfère Massa à la rigueur.
Mm. On va passer au classement. Au classement du SAV qui, comme les autres classements, bouge beaucoup, forcément, cette année. Et au classement du SAV, c'est Alonso qui passe devant. Avec 93 points. Devant Vettel, 88. Et. Il remonte après ces deux très bons résultats de suite. C'est Weber qui est 70 points juste devant Kubica, 69. En fait, c'est McLaren qui déguste. Hein. Mm. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas fait une course très glorieuse. Et chez les constructeurs, bah, pareil. Red Bull, 158 points. Ferrari, 122. Et McLaren, 109. Et à noter que Renault est quatrième avec 85 points devant Mercedes, 78. Là encore, avec le très bon résultat de Kubica et les bonnes notes qu'on a pu donner, par exemple, à Petrov. Dans l'autre classement, on a une égalité de points entre les deux pilotes Red Bull, Weber et Vettel, mais Weber est devant puisqu'il a deux victoires contre une. Troisième, Fernando Alonso, qui s'accroche 75 points. Et à noter qu'on a toujours 8 pilotes. Alors même, c'était 25 points, je crois, la semaine dernière. Et là, on est en 22. Donc ça se resserre, et puis comme on sait que 25 points, c'est un peu comme les anciens 10 points, donc ça peut encore bouger dans tous les sens, alors qu'on est déjà au tiers du championnat. Hein.
Et quand même, à noter le bond en avant de Weber, qui était 8e il y a deux Grands Prix, qui passe premier.
Oui.
Et au contraire, le bond en arrière de Rosberg, qui était 2e il y a deux courses,
et qui est 8e.
À la 8e place.
Parce que chez les constructeurs, bah, Red Bull est devant 156 points, devant Ferrari 136, 20 points, c'est pas si énorme que ça. Hein. Et alors, par contre, entre Ferrari et McLaren, il y a que 7 points. McLaren est à 129. Par contre, Mercedes est déjà à 78 points. Et bah, voir Renault quand même revenir, hein, puisque Renault a 65 points, il y a que 13 points d'écart.
Mais ce qui va être dur pour Renault, c'est d'avoir entre guillemets qu'un seul pilote à mettre dans les points.
Sans doute, oui. Oui.
Ouais.
Sur le long terme. Là, déjà, sur le premier tiers du championnat, c'est quand même pas mal du tout. Hein.
C'est à regretter l'époque où il y avait où le classement ne tenait compte que d'un seul pilote le mieux classé.
Ah oui. Oh,
c'est vieux ça.
Ouais.
Après la course, comme d'habitude, vous le savez, on va revenir dans le passé, n'est-ce pas Enzo?
Mais pourquoi donc?
Ah parce que c'est du passé qui est dans le présent, voire même dans le futur.
Oui.
Futur du passé du présent.
Jingle.
Ceci est un message du comité de surveillance des podcasts. Pour relever le niveau de l'émission, le service après-vente de la F1 vous présente sa rubrique culture, la minute historique d'Enzo.
Eh ben, quand on entend l'introduction de Shinji, on se dit qu'on n'est pas prêt à relever le niveau de l'émission. Hein. T'as du boulot là, Enzo.
Bon, toujours en partenariat avec StatF1, bien sûr. Ils ne savent pas qu'ils sont partenaires, mais ils sont vraiment partenaires.
Faut le dire, oui.
Grand Prix de Monaco. Bon, on a plein d'idées. On a plein d'idées sur le Grand Prix de Monaco. Donc aujourd'hui, c'était voir si on allait casser les idées reçues sur Monaco. Donc en fait, j'ai cherché des petites idées reçues sur Monaco et je voulais voir avec vous si à votre avis elles étaient vraies ou fausses.
Ah,
d'accord.
Hein? Donc idée reçue numéro 1, il faut partir de la pole pour gagner à Monaco.
Bon, c'est vrai.
Ah, je dirais faux. Ce serait pas plutôt deuxième ou troisième place?
Je pense que c'est vrai, mais que la proportion est pas gigantesque.
Ouais.
Donc en fait, sur la F1 moderne, comme je l'appelle depuis les années 90, donc 21 dernières courses, 48% des vainqueurs sont partis de la pole. Donc on peut dire que c'est vrai.
Mmh.
Et sur depuis 1950 et les 57 Grands Prix de Monaco, 44%.
Ah ouais.
Sachant que... quand on n'est pas sur la pole, la moyenne c'est 3,5-3,6 à peu près. Que ce soit depuis 1950 ou depuis du moins ces 20 dernières années, quoi. Donc c'était vrai. Donc c'était qui avait dit ça? C'était
Dino.
Il est reçu numéro 2. Seuls les grands champions s'imposent à Monaco.
Faux. Il y a parfois des victoires surprises.
Nice 96, Montoya il y a quelques années.
Alors. globalement, moi je veux dire que c'est vrai. Parce qu'il y a 71, sur ces 20 dernières années, donc il y a 71% des vainqueurs qui ont été champions du monde.
Ouais.
Alors pourquoi? C'est aussi grâce aux 6 victoires de Senna, aux 5 de Schumacher, qui à chaque fois remontent la stat, hein, ouais. En fait. Hein.
Oui.
Après, si on compte qu'une fois Senna, qu'une fois Schumacher, en fait, il y a quand même 57% des pilotes qui sont champions du monde. Donc, c'est quand même plutôt vrai. Puis on a des stats un petit peu moins bonnes si on prend depuis 1950, mais c'est quand même pas mal. Donc pour l'instant les idées reçues tiennent bon. Bon, alors idée reçue numéro 3, c'est un circuit atypique. Alors atypique dans le sens, c'est pas parce qu'une voiture est bonne à Monaco qu'elle sera bonne ailleurs.
Oh c'est faux.
Oh c'est faux oui.
Donc pour vous c'est un circuit pas du tout atypique.
Bah c'est un circuit où généralement la voiture qui gagne c'est quand même une voiture qui est forte sur le reste de la saison.
Ouais.
D'accord.
Et puis qui peut faire parfois des bons résultats sur d'autres circuits.
Alors effectivement c'est faux. Puisque sur les 20 dernières années, puisque j'ai pas pris 2010 parce qu'on sait pas encore. Et ben 11 fois sur le 20, le 11 fois sur 20, le vainqueur à Monaco était différent du champion du monde.
D'accord.
Donc, c'est 9 fois sur... dans 50% des cas, la voiture championne du monde s'impose quand même. Quoi.
Ouais. Donc, mais ce qui est intéressant, surtout, c'est en termes d'équipe au championnat constructeur, est-ce que c'est souvent le même constructeur? Le constructeur champion, c'est celui qui s'impose à Monaco?
Alors ça, je vais pas tester. Alors je te la garde. Allez, puis une dernière idée reçue. L'idée reçue numéro 4. Les Ferrari sont toujours bien à Monaco.
Ces dernières années, c'est plutôt les McLaren.
Ouais.
Alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est vrai. C'est vrai, mais... En fait, quand on regarde les victoires, McLaren a 15 victoires à Monaco. Tandis que Ferrari en a que 8 et Lotus 7. Par contre, en termes de podium, alors, bon, faut dire, on remonte plus loin dans le passé. McLaren a 25 podiums, Ferrari 46.
Ouais, mais c'est pas la même carrière.
Je suis d'accord, c'est bien pour ça que. Ouais. Mais bon, c'est quand même pas dégueu comme chiffre.
Ouais.
Donc voilà, c'était des petites stats rapides sur Monaco. Walou.
C'était une question interne, comme à chaque fois. Allez, on va passer aux faits marquants. On va revenir sur les faits marquants du Grand Prix d'Espagne. Les classements sont relativement serrés cette semaine pour le Grand Prix d'Espagne.
Non, t'es largué, j'ai dit.
Attends, j'ai 7 votes, t'en as 9.
Bah oui, bah je suis devant, je suis désolé.
Et pendant un moment, j'étais même égalité devant toi.
Bah ouais, mais...
T'as repris à la fin. Donc, en effet, 7 votes, 27%, le crash d'Hamilton après une très belle course. En deuxième, la résistance de Schumacher face à Button, 35%, 9 votes. Donc, ta stratégie machiavélique n'a pas marché.
Bah ouais, mais je suis pas d'accord parce que Enzo a pris un truc sur la qualif. Et on prend rarement des trucs sur la qualif.
Il a le droit de prendre un truc sur la qualif. Là, quand on a infligé par les Red Bull aux autres équipes en qualif, 10 votes, 38%.
Il y a le règlement 42.13 qui dit...
C'est celui que Dino vient d'écrire.
Non, mais il n'y a pas de règlement, mais voilà, si je m'étais préparé à ça, j'aurais eu ce coup de vis.
En plus, il n'était même pas là pour défendre son fait marquant, donc c'est encore plus beau. C'est-à-dire que voilà, il y avait juste cette phrase-là, et il a gagné.
Mais arrête de le défendre, t'es troisième, je me dis arrête.
Mais oui, mais là, je vais avoir le premier choix.
Ouais, voilà.
Et donc, en premier choix, il y a deux trucs qui pourraient gagner, je pense. Mais je vais quand même dire le dépassement de Schumacher sur Alonso dans le dernier tour.
Dis-nous. Moi aussi, j'ai deux choix.
J'en ai trois, je me suis dit je vais partir trois derniers.
Bah, je suis obligé de dire la remontée de Fernando Alonso.
Vas-y Enzo, t'es pas dans la merde.
Ah, moi j'ai noté la stratégie de Fernando.
Oh non.
Oh non.
Oh non. Non, là c'est trop proche.
Ah bah oui, mais bon, c'est différent.
Non, 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 je suis pas d'accord, là c'est
non,
trop proche.
Non, non, c'est trop proche.
Vous êtes dur. Alors, ça sera très exactement Weber, prince du rocher.
Oh.
C'est beau, mais ça sent la danse des canards.
Ouais.
Allez.
Non, 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 j'ai fait la promesse. J'attendais de pouvoir le faire à Enzo, parce que Enzo, il a été long à pouvoir gagner quelque chose. Puis quand il a gagné, il était plus là. Mais voilà. Maintenant, c'est fait. Enzo a eu le droit à sa, c'était quoi? La fête au village.
Les musclés, oui.
Et voilà, les musclés. Et Shinji a eu le droit à la danse au canard. Maintenant, on aura plus de musique. Sauf pour quand moi je gagnerai.
Salaud. Allez, tout de suite, les drive-thru.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, c'est drive-thru.
Moi, ce serait simplement contre Mercedes parce que, pour deux raisons. D'abord parce que ils ont, je pense que d'abord, ils connaissent suffisamment le règlement pour.
Déjà, quand il y a une raison, c'est long, mais quand il y a deux raisons.
Je pense qu'ils connaissent suffisamment le règlement pour éviter ce genre d'erreur, ou en tout cas pour éviter de nous dire après « Ah ben non, mais on n'était pas au courant, voilà, on pense qu'on est dans notre bon droit, etc. » Voilà, ils disent « On a tenté le coup, on attend de voir si on va le sanctionner, mais bon, on a tenté le coup, fallait tenter le coup, plutôt que de dire « Ah non, non, mais on est dans notre droit, etc. » Et puis un deuxième volet, c'est surtout pour le fait d'avoir fait appel. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils disent voilà, on fait appel, surtout qu'ils ont rien à y gagner parce que
ils ont retiré l'appel.
Oui, non, ils l'ont retiré, mais dans un premier temps, ils ont dit qu'ils feraient appel. Et le fait d'avoir dit qu'ils allaient faire appel, il leur a mieux valu qu'ils disent voilà, bon, on a tenté le coup, bon bah ça s'est retourné contre nous, on a été les seuls à tenter le coup. Surtout que l'argument qui explique qu'ils ne font pas appel, c'est de dire bah oui, mais bon maintenant, on nous a dit que toutes les équipes ont demandé et que ils ont dit non, on dépasse pas, il y a la règle du drapeau jaune, etc. Voilà, ça fait quand même deux jours que toutes les équipes disent ça et ça fait deux jours qu'ils disent non, on va faire appel, on est dans notre bon droit, que les pilotes soutiennent Schumacher, etc. Donc voilà, c'est un petit drive-thru contre Mercedes.
Moi, je vais mettre un petit drive-thru sur les équipes, puisque toutes nous, enfin, les gros, surtout, nous ont dit, oui, que la Q1, ça serait catastrophique, qu'on pourrait pas faire un tour clair, qu'en gros, ça serait des, oui, c'est même plus des chicanes, c'est des monticules, directement sur la piste qui allaient bloquer les routes, hein. Et, bah, finalement, on n'a rien eu quasiment en Q1. Alors, oui, il y a eu, des petits ralentissements, mais pas plus que prévu, hein, pas beaucoup plus que la normale. Et bah, on s'est rendu compte même que chez certaines grandes équipes, ils n'avaient pas besoin d'HRT ou de Virgin pour se gêner, notamment Mercedes. Voilà, c'était tout. Petit drive-thru. Alors Enzo, ton drive-thru.
J'en ai déjà parlé tout à l'heure aussi. Moi, c'est contre la FIA et les commissaires. Doit-on y voir une vengeance de Damon Hill? J'en sais rien. Mais bon, la pénalité appliquée à Schumi qui est un peu forte. Le mettre juste derrière Alonso aurait suffi, je pense. Surtout que c'était, voilà, ça a changé. C'est quand même un règlement qui a changé. C'est un cas très particulier quand la voiture s'en va au dernier moment, etc. Bon, moi j'aurais fait preuve d'un peu d'indulgence comme il y a eu de l'indulgence envers d'autres pilotes depuis le début de la saison. Ça n'a rien de dangereux ce qu'il a fait.
Non, ça m'a surpris d'ailleurs d'entendre parfois dire « Oui, manœuvre dangereuse. » Non, en comparaison, Alonso est beaucoup plus dangereux à perdre contrôle et risquer de se prendre le rail que Schumacher.
Donc toute voilà.
Manœuvre de dépassement sous régime de safety car est une manœuvre dangereuse. Non mais je fais mon chieur sur ce.
Là tu fais ton chieur là. Donc c'était tout pour les drive-thru et tout de suite le concours top pas position.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top pas position. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Alors, la question concours top opposition du Grand Prix d'Espagne était, quelle était la particularité? Alors, on se rappelle que c'était une question un peu bizarre parce que Buchor avait gagné.
Bachelor.
Ouais. Et qu'on avait pris la question de Maël parce que Buchor était, à ce moment-là, je pensais, le seul à avoir répondu et que sa question ne satisfaisait pas. Et j'en profite pour m'excuser auprès de Steph Core d'avoir oublié sa question. Voilà, j'ai mis en place des procédures qui devraient m'éviter maintenant de me tromper.
Des procédures dites du règlement hein, de la F1, voilà. On connaît mieux depuis dimanche.
Histoire de bien continuer dans la pente glissante qu'on avait entamée la semaine dernière dans les règlements phares. Donc vu qu'Enzo n'était pas là et qu'il n'a pas écouté apparemment la fin de l'émission, on va lui poser la question, voir si lui il a la réponse. Ouais. Alors Enzo, Maël nous avait proposé cette question, quelle était la particularité de l'arrivée du Grand Prix d'Espagne 1986? As-tu la réponse?
86?
Yes.
On peut donner le podium, juste pour info, parce que ça aide pas pour la question.
C'est Senna devant Mansell, devant Prost.
Prost, ouais.
L'arrivée de... Non, aucune idée.
Eh ben, il s'agit, en fait, c'est l'arrivée record du plus petit écart.
Centième. Il y a trois chiffres. Trois chiffres après la virgule.
Ah, c'est faux.
Pourquoi c'est faux?
Ben parce que il y a moins. USA 2002.
Ah ouais.
Alors. Ah mais complètement.
Alors je suis pas sûr. Je crois que justement on avait dit après que c'était 11 pas le
millième.
Record. 11 millième. Donc effectivement c'est. Alors on va dire que c'est là sur une arrivée classique standard.
Oui.
C'est le record. 14 millième. Il faut aussi noter que paradoxalement si l'écart était si faible à l'arrivée entre le premier et le deuxième, il n'y avait que 3 pilotes dans le tour et que 8 pilotes à l'arrivée.
Ah oui.
Sur, je crois, 25 au départ. Donc c'est quand même une course très serrée entre les deux champions du monde, d'ailleurs, puisqu'ils l'ont été par la suite. Alors nous avons eu 5 réponses, donc 5 questions.
Oui.
Que je m'en vais tout de suite vous proposer.
Oui.
Première question, Michael Schumacher et David Coulthard partagent le même exploit à Monaco, lequel?
Ok.
Ouais. Ensuite, question suivante qui nous est proposée. Quel pilote a maculé la piste de Monaco d'une épaisse fumée blanche au deuxième tour du Grand Prix de Monaco 2004? Question suivante. À l'origine, le Grand Prix de Monaco ne comprenait pas de chicane après le tunnel, provoquant notamment l'abandon spectaculaire d'Ascari dans les eaux de la Méditerranée en 1965. Mais depuis, quand cette chicane existe-t-elle? Question suivante. Quel pilote passe de la 7e place à la 4e place au départ du Grand Prix de Monaco 2004?
Qu'est-ce qu'ils ont tous avec le Grand Prix de Monaco 2004?
C'est particulier. Et enfin, cinquième question. Quel est le nom du dernier pilote monégasque à être monté sur un podium à Monaco? Alors, ils n'ont pas été 15 000, les pilotes monégasques.
Hein. Je ne connais même pas, hein, quoi.
Donc, messieurs, quelles questions choisissons-nous?
J'ai un penchant pour deux, en fait. L'âge de la chicane.
Oui.
Et le pilote monégasque.
Et l'âge du capitaine.
Ouais. Et toi, Enzo?
J'en ai retenu aucune, en fait. Non, non, c'est pas ça. Il y en a aucune qui m'a... Bon, voilà. Mais bon, je suis open à toutes, moi. Putain, j'ai une super question, moi.
Oui, mais non.
Non, mais la chicane, ça me va, la chicane.
La chicane?
Bon, voilà, la chicane.
Donc, c'est Globen qui remporte son petit bulletin qui ira dans le tirage au sort final de la fin de saison avec sa question. À l'origine, le circuit Monaco ne comprenait pas de chicane après le tunnel, mais depuis quand cette chicane existe-t-elle? Pour répondre, rien de plus simple, vous allez sur le site du SAV www.savf1.fr, rubrique contact, en pensant bien à spécifier hein, comme objet du message concours top opposition. À noter quand même qu'on a eu une petite question jugée difficile par son auteur qui était Steph Core. On peut quand même rendre hommage à ceux qui nous ont posé les questions. Steph Core avait proposé la question sur le monégasque podium de Monaco. Oui. Sato Kamikaze avait posé des questions sur le Grand Prix Monaco 2004, ouais. Avec à chaque fois comme réponse Takuma Sato. Et Bilo avait proposé la question sur Michael Schumacher et David Coulthard, qui partagent le même exploit à Monaco, à savoir celui d'avoir signé le meilleur tour tout en partant de la dernière place sur la grille. Petite question de Steph Core qui nous a envoyé particulièrement destiné à Enzo, à savoir que Ayrton Senna en 1986 a remporté le Grand Prix de Monaco. mais qu'a-t-il gagné d'autre le lendemain?
En 86?
En 86.
Course au Brésil.
Le lendemain du Grand Prix Monaco. Le lundi, juste après le Grand Prix de Monaco, il a gagné autre chose.
Ah, il a dû gagner une course par disqualification.
Non.
Bon, je sais pas alors. Il a gagné au casino?
Non, il a gagné sa liberté. Parce que figurez-vous que l'ami Ayrton Senna s'était baladé dans les rues de Monaco en moto, sans casque, qu'il a été arrêté par la police, conduit au commissariat, au commissariat, et qu'au commissariat, on l'a reconnu et on dit « Oh, c'est Monsieur Senna, on va pas l'arrêter !» On lui a rendu sa liberté, donc il a gagné sa liberté alors qu'il aurait pu aller au New.
Ouais.
C'était très dur à trouver. Moi, honnêtement, c'est ma petite fierté. J'ai trouvé la réponse juste parce que j'avais lu un article dessus.
D'accord. Voilà. Et ben moi, je vais vous raconter une autre histoire. C'est un pilote qui s'appelait Cliff Allison. Vous connaissez, non?
De nom, oui.
À Monaco, en 1960, lors des essais libres disputés le vendredi. C'est bizarre que ce soit vendredi. Bref, peut-être qu'à l'époque, c'était comme ça. C'est un pilote Ferrari et il sort violemment de la piste après avoir heurté une botte de paille. Inconscient, il est évacué du sortie au plus vite afin de rejoindre l'hôpital. Souffrant d'un tassement de vertèbres et d'un bras cassé, Cliff Allison restera 16 jours consécutifs dans le coma. Sa carrière véritablement lancée lors du Grand Prix précédent, où il avait fini deuxième en Argentine, subit un gros coup d'arrêt. Mais le Britannique n'aura pas tout perdu dans cet accident, au contraire, car à son réveil, Cliff Allison est capable de s'exprimer dans un français correct, lui qui ne pratiquait aucunement la langue de Molière auparavant.
Un truc de dingue.
Voilà.
Waouh.
Il est moins bizarre comme ça.
C'est... Oui.
Je voudrais du pain, s'il vous plaît. Hein? De quoi? Je voudrais du pain avec du beurre dessus. Ah, je parle français, c'est fantastique.
Allez, on va terminer, comme d'habitude, sur les pronos sur le prochain circuit. Et on sera en Turquie, où il y aura sans doute toujours aussi peu de monde.
Oui.
Oui.
Oui, c'est vrai. Bon, au moins, il y aura des pilotes, quoi.
Ouais. Alors, qui pour la Turquie?
Massa. En Turquie, Massa. Il y a tout le temps.
Oui. Oh, déconne. Ouais. Donc, tu déconnes ou c'est vrai?
Allez, Massa, pour le fun. Mais même si j'y crois pas une seconde.
Moi, j'irais bien à Hamilton. Il a pas encore gagné. Ça va être une piste plutôt rapide, donc ça devrait plutôt bien aller au McLaren. Ouais, Hamilton.
Eh bien, moi, je dirais Vettel.
Ah, oh, tu choisis la facilité?
Non, mais non, en ce moment, c'est pas la facilité, Vettel. Non, moi, je dirais Vettel juste parce que, il a un compte à régler avec le circuit où il a fait une erreur l'an dernier et un compte à régler avec son coéquipier.
Oh. Allez, sur ce, on remercie, comme d'habitude, le Tour Mécatech.
Ouais.
Qui était à Monaco. Qui devrait être en Turquie, certainement.
Oui.
Hein, qui sera là en Turquie. On remercie tous nos partenaires que tu as déjà cités pendant l'émission.
Bah, toutf1.com, standf1.info et statf1.com.
Merci à vous.
S'il y en a des nouveaux qui veulent se présenter, il n'y a pas de problème.
Ouais. Merci à vous deux.
Mais de rien, merci à toi d'avoir présenté l'émission.
Nous t'en prions.
Et bien évidemment, merci à vous de nous écouter. Bonne journée.
Attention au poteau.
Voilà, bonne journée, bonne soirée et comme d'habitude, attention au poteau. Salut à tous.
Salut à tous.
Bonne soirée.